Génie sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2h en compagnie d'Isabelle Motreau. Caroline Diamant. Ouais. Philippe Alfonsi. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Gaspard Proust. Et Philippe Gueluc. Bonjour Philippe.
Bonjour Laurent.
Bonjour Philippe.
Veuillez me pardonner, mais j'ai un petit peu perdu ma voix.
Ah oui, mais vous avez surtout perdu vos habitudes, parce que d'habitude c'est vous qui me servez l'eau, le café. Et là c'est Caroline Diamant, la Madelon, qui est obligée de le faire elle-même.
Mais oui, et puis c'est Joujou qui vous sert ça. Lui il est payé au mois, c'est normal qu'il vous serve les trucs.
Ouais, c'est dans le tarif, moi de toute façon c'est prévu.
Ah oui,
prévu,
sur
ça.
Ordre de Joujou d'un regard furieux qui m'a fait signe, passe le verre au patron.
Ah oui, oh là là, Joujou, Caillou, Hibou,
Et pouf.
Et pouf, et sur les genoux.
Non, écoutez, franchement, arrêtez, ce pauvre garçon a une vie et moi aussi.
Oui, c'est ça.
Bon, lui, son mec n'est pas jaloux, mais la mienne, ma femme est très.
C'est vrai que ta nana, elle commence à faire la gueule.
Mais en même temps, c'est vrai que les auditeurs ont remarqué ma bonne humeur retrouvée. Jean-René, oui. Par exemple, dit « Cher Laurent, ça fait plaisir de vous voir si heureux, comme quelqu'un qui aurait retrouvé son sextoy après l'avoir perdu. » Et c'est vrai, il nous avait manqué, Joujou. Ah, voilà. Caroline personne... aussi, d'ailleurs, mais alors, je ne sais pas ce qu'elle fait ces derniers temps. Regardez, elle a l'air complètement mais crevée, fatiguée, épuisée.
Ouais. T'as l'air d'avoir des nuits fatigantes.
Et on sent que vous n'avez pas dormi.
Non, j'ai pas énormément dormi.
Ah, qu'est-ce qui se passe alors?
Et ça, je connais les femmes, moi.
Oui, mais mon mari a dormi, lui, donc foutez pas la merde.
Enfin, allez, ça, on enchaîne. Comme d'habitude. Que vous soyez là ou pas.
Mais vous êtes fous. Allez, bon,
ça
lundi...
fait combien de temps que vous êtes ensemble?
Dimanche, on sera mariés depuis 17 ans.
Ah oui, c'est fini.
Ah oui, oui, oui. Bah voilà, c'est... au bout de 17 ans, le mari dort à côté. C'est logique.
Ça, c'est les noces de quoi, 17 ans?
Ce sont les noces de poker.
Ouais, ça se joue à pile ou face.
Et il y en a un des deux qui bluffe.
Ah, ça, c'est très joli. Je m'appelle Thierry, il a 37 ans et il dit c'est un message d'amour et de remerciement. C'est très sérieux. Je vous fais parvenir. En effet, c'est assez même incroyable, vous allez voir. Au mois de mai, j'ai fait un AVC suivi d'une longue période d'amnésie. À l'hôpital, mon ami a apporté une radio et l'a branchée sur Europe 1 que j'écoute depuis une dizaine d'années. Et c'est au cours d'une de vos émissions, alors que les chroniqueurs éclataient de rire, que la mémoire m'est revenue.
Oh, c'est génial.
Incroyable. Vous vous rendez compte, ça? Ça, c'est quand même, c'est touchant. Ça m'en fait même
Est-ce qu'on n'enverra pas ce mail à Lourdes pour que nous soyons inscrits au grand registre des miracles?
Ce serait pas con, ça.
Ah, bah oui, attends. Vous pourriez être canonisé. Déjà, vous êtes
canonisé. C'est marrant parce que sur Claude, ça marche pas.
Mais oui, c'est ça.
Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs.
Elle n'est pas canonisée, elle est canonique, elle, c'est différent.
Merci à vous tous, car aujourd'hui, je vais mieux et je ne rate plus aucune émission, étant donné que je suis en arrêt de travail. Le rire est le plus grand des remèdes aux divers maux, et c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas le seul témoignage que nous recevons de ce genre, mais enfin, quand même, c'est la première fois qu'on fait retrouver la mémoire à quelqu'un.
Absolument, mais nous faisons aussi les guérisons par imposition des mains. Si des jeunes filles dans le public veulent... Ils veulent se prêter à l'expérience.
Méthode Polanski.
Voilà.
Ah, ça. Ça m'étonnait qu'on n'en ait pas encore parlé au bout de 10 minutes.
De quoi?
De Polanski.
On en parle tous les jours de l'affaire Polanski. Mais les gens se déchirent sur cette affaire-là.
Vous avez entendu ce que David Letterman avait dit dans son show. Il avait dit formidable, ils ont coffré Polanski, il ne reste plus que Ben Laden.
Ah
bah oui. Ils sont arrivés plus vite à attraper Polanski que Ben Laden.
Et Ben Laden est resté plus longtemps dans la grotte quand même.
Oh non.
J'ai entendu hier dans l'émission de Guillaume Durand, tiens, l'analyse la plus intelligente faite sur l'affaire et sur la justice en général, dit Daniel à propos de cette affaire Polanski. La justice américaine juge l'acte commis par un homme, alors que la justice française juge l'homme qui a commis cet acte.
C'est assez émouvant cette affaire, parce que moi je me suis rendu compte, j'étais aux États-Unis et je me suis dit qu'à une certaine époque, et moi et lui, à 6 ans, on était amoureux de la même meuf.
Merci Laurent pour être l'un des rares animateurs à défendre ouvertement... Oh, bah non, je défends pas ouvertement la victime Polanski. Ce que je veux pas, c'est qu'on utilise des mauvais arguments pour le défendre. Quoi. Voilà. C'est parce qu'on entend des grosses conneries quand même sur cette affaire.
Est-ce que c'est parce qu'il a du talent qu'il ne doit pas être poursuivi? Bah non, évidemment.
Et c'est vrai que Les Visiteurs, c'est un film formidable.
Mais c'est vrai qu'on devrait mettre... Non, cela dit, ça devrait nous faire réfléchir à mettre plus souvent les mauvais réalisateurs en prison, oui. Même s'ils n'ont pas fait d'attouchement sur les enfants.
Ouais, je crois que tu as raison.
La majorité des gens seraient encore en tôle s'ils avaient fait la même chose que Polanski. Mais bien sûr, le microcosme des artistes et intellectuels sont des gens en dehors de nos vies et le fossé se creuse, dit un auditeur. Même l'UMP ne l'a pas défendu, c'est pour dire. Sinon, monsieur Ruquier, je vous adore avec votre équipe. Mais là, Miller et Benichou, c'était hier, qui sont normalement mes préférés, et il faudra commencer à les soigner, dit cet auditeur.
Je suis
auditeur.
Sûr qu'ils ont défendu Polanski, c'est ça ?
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Isabelle Motreau ? Tiens, ça m'intéresse. Puis après, Alfonsi. Profitons des intellectuels qui sont de passage.
je vous donnerai mon avis aussi.
Attends lundi, peut-être.
J'étais très choquée d'entendre Frédéric Mitterrand défendre Polanski avec les arguments qu'on sait. Il a tellement de talent. Alors ça, bon, je trouve ça hyper choquant. Moi, la seule chose qui me fait douter de la position que j'aurais sinon, c'est-à-dire que je suis absolument contre le fait qu'on excuse un mec qui est violé après avoir il a abusé de cette jeune fille après l'avoir endormie en la faisant boire je ne sais quoi, donc c'est quand même impardonnable. Mais la jeune fille elle-même, qui aujourd'hui est une femme, dit qu'elle ne veut pas poursuivre l'affaire. Alors ça, du
quand
coup,
même, elle attend toujours qu'on lui fasse tourner le film qu'on lui avait promis.
Elle a jamais eu son rôle, c'est
disons,
ça qui est dégueulasse.
Disons que ça c'est une... Bon, alors là, du coup, j'aurais des réserves, parce qu'elle-même, la victime, dit ouais. je veux qu'on passe l'éponge.
Mais pour quand tu dis, c'est un peu dégueulasse, quand tu dis elle passe l'éponge, après 30 ans, ça a dû sécher. Non mais
sinon, Alphonse... voilà, je trouve que c'est quand même très choquant de tout de suite monter sur ses grands chevaux et dire, ah bah attendez, c'est un artiste, les mecs, on n'y touche pas, quoi.
Il n'y a qu'une chose qui excuse, enfin qui devrait, on devrait foutre la paix à Polanski, c'est que cette femme avec qui il a couché a dit qu'elle tournait la page. Et
oui, voilà.
Mais entendre parler. Là, du coup... Il avait payé en plus, parce que je vous rappelle qu'il a payé.
Qu'est-ce qu'il a payé?
Il lui a donné de l'argent.
Bon, ouais. Parce que comme d'habitude, ça s'est passé comme ça.
Oh, mais tu trouves ça, tu trouves que c'est une excuse, toi?
Si la maman a pris de l'argent.
Tout simplement, elle a rappelé, qu'elle voulait tourner la page et qu'il avait payé.
Et d'ailleurs, nous rappelons à tous les mineurs qui nous écoutent que nous avons beaucoup d'argent. Non mais c'est dégueulasse ce que vous dites, Alphonse. Je suis d'accord avec Motreau. C'est pas parce qu'on peut payer après pour se rattraper, alors tout est permis.
La justice est une compensation de 225 000 dollars.
C'est la méthode américaine insupportable. Ils ont essayé de faire la même chose avec Michael Jackson. C'est pareil, à chaque fois, vous avez une famille qui dépose plainte pour essayer de tout tirer du pognon à des gens qui en ont. Je trouve ça dégueulasse.
Ce qui est dur aussi, c'est pour sa femme, Polanski, quand même. Emmanuel Seigné.
Son disque est retardé.
Mais surtout Emmanuel Seigné, alors que la petite de 13 ans, pas encore.
Non.
C'est-à-dire qu'entre les intellectuels et les pervers, je sais pas où me situer.
Appelle Gérard Miller, il est entre les deux.
Vous êtes toujours au milieu.
Non, mais il y a juste une chose, on dit que la fille, je reviens à l'histoire Polanski, que la jeune femme, qui était l'enfant, a retiré sa plainte, mais je crois que surtout, elle veut plus qu'on lui parle de ce truc. Elle a retiré sa plainte, pas juste pour retirer sa plainte, mais c'est parce qu'elle en a marre d'être sous le feu des projecteurs, qu'on revienne continuellement la photographier, la mettre à la une de la presse. Elle a dit, ça va bien, bon, je retire ma plainte.
Il vaut mieux tourner avec une réalisatrice femme, en fait. Voilà, parce que.
Exactement, José Dayan, par exemple.
On se retrouve après la pub avec le premier challenge du jour.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier.
Europe 1, On va se gêner.
Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie.
Carole, Florian, bonjour.
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 Carole est à Aimé ou Aimette, je ne sais pas comment on doit prononcer. Aimé. C'est en Dordogne. Aimé. Oui.
C'est ce qu'il y a de plus beau. Non,
comme dans la comédie musicale, alors.
C'est pas très loin de Bergerac.
Ah, bah, très bien. Carole, vous faites quoi dans la vie là-bas?
Juriste.
Ah, juriste.
Il y a beaucoup de boulot pour les juristes à Aimé?
Non. Pour rien de plus loin.
C'est la seule.
Ben c'est bien, vous en rigolez en tout cas, Carole. Contre Florian qui fait quoi à Orléans, Florian?
Ah, c'est une ville qui se situe près de Paris.
Enfin, ah ouais, ça c'est un joli boulot ça.
Il y a des villes qui sont après Paris.
Non mais ça je sais.
Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis dans le Val-de-Marne.
J'ai pas dit que je ne savais pas où était Orléans, je vous ai demandé, il fait quoi à Orléans, Florian?
Ah, il travaille dans un fast-food.
Ah ben voilà, c'est plus clair dans Orléans, je vois à peu près où c'est, vous voyez, c'est là où Ségolène Royal a libéré la France.
Hein, oui, c'est ça, c'est ça.
Je me trompe pas. Florian travaille dans un fast-food local, Quick, McDo.
Le premier.
Vous avez quel poste dans le fast-food?
Ah, je suis le mec du grill.
Vous êtes le mec des responsables du steak.
Voilà, c'est moi qui mets les frites dans l'huile, c'est moi qui fais les burgers.
Eh ben mine de rien, c'est une responsabilité chez Quick.
Vous me donnez faim là. Ah non, plus j'adore ça, Quick.
Ah ouais, Quick, c'est bien.
Ah non, moi, j'ai l'autre enseigne.
Pas vous, Proust?
Si, j'adore. C'est génial. Super, j'aimerais tellement griller des steaks.
Il est con, Gaspard Proust. Bah, oui, il faut savoir le faire. J'ai une question pas toute simple pour vous, Carole et Florian. Il va falloir faire quick, Florian, et vous, Carole, utilisez évidemment vos plus...
Oui, oh, bon, bah, écoutez. Non, mais attends, mais bon... Non, mais on n'a qu'à le laisser passer.
Quoi que je vous dise, moi, je suis payé pour être animateur, j'anime. Vous voyez, ça s'appelle animer. Il va falloir faire quick, voire même fast, Florian.
Et Carole, elle va devoir faire quoi?
Ah bah, il va falloir qu'elle réponde rapidement, parce que autrement on va la laisser tomber. Il faut pas être juge et parti quand on est juriste. Carole, Florian vont devoir répondre à cette question. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Monsieur et Madame Môme dans la presse en ce moment? Pourquoi parle-t-on beaucoup de Monsieur et Madame Môme dans la presse en ce moment?
C'est les parents des minutes là, parce que je sais moi. Alors,
vous savez vous? Oui, alors on leur laisse 5 ou 6 secondes, allez, à Carole et à Florian. Alors. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Monsieur et Madame Môme dans la presse en ce moment? Ça s'écrit M-E-A-U-M-E.
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 Et c'est parfaitement ridicule.
C'est les parents de quelqu'un qu'on connaît?
Non, pas du tout. Vous le savez, Carole, Florian?
C'est pas pour la politique?
C'est en... politique,
c'est un
oui.
peu politique.
Ah, c'est même très politique.
C'est très politique en France.
C'est le surnom de Nicolas et Carla Sarkozy.
Ah, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est... c'est-à-dire que Internet va pas assez vite.
Ah, ouais, ça c'est Orléans, ça va pas assez quick.
Il est pas loin de la réponse. Quick.
C'est comment ils se sont fait appeler à l'anniversaire de Nelson Mandela. Donc c'est le pseudonyme qu'ils prennent quand ils
le
réservent.
Pseudonyme qu'ils prennent. Bonne réponse de Florian.
Et quand même, il fallait être un génie pour trouver ça. Hein,
et merci à Google, mais abonnez-vous tout de même au haut débit, Florian.
Ça serait mieux. Ah ouais,
pourquoi ça va pas assez quick?
Pourquoi Môme?
Ce qui est ridicule, si vous voulez, qu'ils prennent un pseudo, c'est normal quand ils voyagent et tout. Sauf qu'ils pourraient changer les prénoms, parce que Nicolas et Carla Môme...
Ah non,
Carla Môme.
C'est ça qui est quand même couillon.
Mais pourquoi Môme? Qu'est-ce qu'il leur a donné?
C'est parce que quand ils arrivent, lui, il est tellement petit qu'à l'hôtel, on dit « Et pour le Môme, on vous met un lit supplémentaire ».
Je rigole pas, ça m'arrive aussi. D'ailleurs, il paraît qu'elle est poursuivie par les Américains pour détournement de mineurs, Carla.
Vous la verrez jamais en Suisse.
C'était dans Le Point aussi, hein, cette semaine, cette photo de monsieur, madame Nicolas et Carla Môme qui prennent un nom d'emprunt pour voyager incognito. Non, c'est chouette, je trouve.
Ils sont incognito avec 14 gardes du corps en plus, toujours.
Non, mais c'est pour les avions, vous savez, pour pas que les noms soient évidemment inscrits à l'avance.
C'est débile de pas changer les prénoms.
Ouais,
mais imaginez qu'ils se trouvent dans un avion qui tombe dans la mer. On les retrouvera jamais, puisqu'on regarde sur la liste des passagers.
Je pense qu'on le saurait. Je vous l'ai dit, je pense qu'on le saurait. Je sais pas pourquoi.
Ils auraient plus d'humour si c'était appelé monsieur et madame de Villepin. Quand tu voyages,
ça aurait été rigolo. Ouais. Florian, vous embarquez avec Croisimer pour une croisière à la découverte des trésors de la mer Rouge qui vous emmènera à la rencontre des merveilles de l'Égypte et de la Jordanie.
Eh oui.
Une croisière francophone d'une semaine avec des vols au départ de Paris, Lyon, Lille, où vous voudrez. Bon, Orléans, c'est pas loin de Paris, vous prendrez Paris, hein? Hein, Florian?
Il n'y a pas d'aéroport
à Orléans, non, bon, très bien.
Mais avec la nouvelle portée des missiles d'Ahmadinejad, c'est pas plus dangereux, là?
Faut voir. Vous accosterez à Aqaba, en Jordanie, d'où vous partirez visiter le site de Petra.
Petra, c'est magnifique.
Souvenez-vous, monsieur, Môme, on visitait Petra ensemble.
Petra, mais oui, et on jouait à ce jeu, on mangeait des cassoulets, on jouait à Petra, Petra pas.
Oh non!
C'était magnifique.
Ah non, vous confondez avec Tahiti, avec Papette et...
Ah, ça aussi, mais les merveilles.
Oh, ça donne envie de voyager avec vous.
Vraiment. C'est des vous paysans. Serez, mon cher Florian, en pension complète à bord de ce bateau croisimer. Il y aura des conférences qui ponctueront la croisière.
Oh, super.
Sur quoi?
Quel genre de conférences?
Des conférences UMP, un truc sympa.
Comme ça, s'il pleut, on ne s'emmerde pas.
C'est une croisière croisimer pour deux personnes. Les départs ont lieu entre le 28 novembre 2009 et le 20 février 2010. Je suis sûr quand même que vous êtes content, Florian.
Ah oui, c'est surtout les conférences, c'est quelque chose qui me touche vraiment.
Et vous allez partir avec qui?
On verra, je vais mettre aux enchères.
Ah ouais,
c'est-à-dire, il va la revendre?
Je vais mettre aux enchères, voir qui c'est qui avec de mes amis, qui c'est qui sera le plus intéressant.
Ah oui, celui qui paye le plus, d'accord.
Je rentabilise en même temps.
Vous n'avez pas une petite fiancée, quelqu'un à emmener?
Bah ouais, on verra.
Ou alors on lui envoie Claude Sarraute, elle pourra aller rendre visite à quelques momies.
Oui, c'est ça. Florian, bravo. Carole, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr.
Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est normal puisque nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices du vendredi.
Europe 1, on va se gêner. La question, citation.
Qui a dit quoi?
Quoi?
Ah, puisque j'étais dans le point avec cette information sur Nicolas et Carla Maum, qui utilisent donc ce pseudo pour voyager, une autre phrase qui m'a amusé dans le point cette semaine, c'est une phrase prononcée par qui? Là est la question. Je préférerais me faire examiner la prostate en direct à la télé qu'avoir une page sur Facebook. Je trouve ça assez rigolo.
Donc déjà, c'est un homme.
C'est un homme.
D'un certain âge.
D'un certain âge. Qu'est-ce que vous appelez un homme d'un certain âge? Est-ce que c'est entre Joujou et Philippe Alfonsi? Entre Joujou et...
Non, parce qu'un mec de 30 ans pense pas à sa prostate. Non,
alors c'est drôle parce que je l'ai lu.
Il a plutôt 50.
Et pourtant, j'ai pas lu le point. Donc ça veut dire qu'elle a été reprise ailleurs.
Ah, c'est
tout le monde s'en fout, mais ça me fait gagner du temps pour retrouver.
Ouais, 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 je vois, ouais.
C'est un homme de qui a 50 ans.
Donc 50
ouais, ouais, Angela Merkel.
Oh, non. Oh, c'est horrible parce que t'as les images qui viennent en même temps.
Moi, je trouve du charme, Angela Merkel. Ah ben,
du charme. C'est un snob. C'était dit de manière très snob. Oui, je me suis dit, genre, je m'abaisserais pas à avoir une page sur Facebook.
Non, c'est plutôt,
Alain Delon.
C'est plutôt une vraie page d'humour, vous voyez.
Oui, c'est ça, mais genre, oui, de manière humoristique, quoi.
Non, plutôt... c'est pas quelqu'un de snob, franchement.
C'est un Parisien?
Un Parisien, non, madame.
Il est français quand même?
Non, c'est un Américain. C'est un Américain. Je me souviens bien.
Voilà.
C'est
d'ailleurs, il a dit I would prefer.
Non, alors, ça va, alors.
Il l'a pas dit.
Examine my ass in TV. Than have a page on Facebook.
Il l'a pas dit, il l'avait écrit, Laurent.
Alors attendez, mais pourquoi je me souviens pas?
Est-ce que c'est un acteur?
C'est Dustin Hoffman.
C'est un acteur.
Non, c'est pas Dustin Hoffman.
Pas Dustin Hoffman.
Oh zut.
C'est un acteur.
Un acteur. Ça m'énerve.
Je vais pas vous le dire 10 fois que c'est un acteur. Oui, c'est un acteur.
Michael.
Vous voulez dire un acteur qui joue au cinéma?
Un acteur qui joue au cinéma, Philippe Braque.
Dans des films?
Parfois même réalisateur.
Oh non.
C'est le cowboy, c'est...
Roman Polanski.
Roman Polanski, non.
Clint Eastwood.
Clint Eastwood.
Non, c'est pas Clint Eastwood.
Qui réalise
zut,
des films.
C'est
Harrison Ford.
Non.
George Clooney.
Puis elle le prouvait comme elle le prononce en
plus. Oh là là.
George Clooney. Bravo, Caroline.
Ah, je savais que j'avais dit. C'est toujours aussi drôle.
C'est plutôt rigolo quand même.
Il est très drôle, ce garçon.
Bien sûr.
C'est pas faux d'ailleurs. Bon, moi j'ai ma page sur Facebook, mais c'est vrai que faut prendre très peu d'amis parce qu'autrement
tout le monde. Faut bien les choisir.
Parce que tout le monde connaît sa vie autrement, et donc il a raison, autant montrer son cul directement à la télévision.
Il est énervant, Clooney.
Ah oui, pourquoi?
Parce qu'il est drôle, il est intelligent, il a du talent.
Oui. Il est beau,
et
il est riche.
Est beau, c'est ça. Mais pas bon, parce que drôle, intelligent, du talent, on en a
ouais,
tous.
Ouais, mais honnêtement, mais
beau, il est beau, c'est il est pas beau, il est pour les mémères, quoi. Non, c'est vrai, franchement, c'est pas un bon coup.
Non.
Ah ouais.
C'est pas comment tu sais?
Comment tu sais?
J'étais
sais
super
ça
déçu. Je sais pas
c'est pour ça que t'es fatigué ce matin?
C'est un truc que je peux pas expliquer, quoi.
Moi, je le sais, Brad Pitt me l'a dit.
Moi j'ai une théorie sur George Clooney, que c'est un peu un bronzé qui n'est pas arabe, c'est pour ça qu'il plaît.
Oh, quelle horreur.
Un bronzé qui n'est pas arabe.
C'est pour ça que les ménagères elles se l'arrachent tout ça. Mais moi je vois pas en quoi il est intelligent. Enfin, qu'est-ce qu'on sait de son intelligence, George Clooney? Parce que
Philippe Geluck, non, attendez, Philippe Geluck.
Moi je vous connais pas, vous êtes vraiment coupé des réalités. Je veux dire, vous passez votre journée à dessiner des minous qui pensent, qui est un contresens historique. En quoi il est intelligent, faut m'expliquer.
Mais je trouve que dans ses déclarations, il me fait souvent rire.
Oui.
Et je trouve que les gens drôles sont intelligents. Et vous m'avez l'air formidablement drôle. Mais je trouve qu'il avait aussi...
Par exemple, quand il dit « What else ?»
Qu'est-ce qu'on se marre.
Elle est quand même bonne, celle-là.
Celle-là, c'est...
Je comprends qu'il n'ait pas envie de montrer sa capsule sur Facebook.
Non, et puis, il m'avait fait rire quand il avait un cochon domestique.
Oui, Max.
Il s'appelait Prosciutto, le premier.
Ah, c'est vrai?
Il s'appelait Prosciutto.
Non, je te crois pas.
Je te jure.
Drôle.
Non, mais attends.
Et c'est à cette époque-là qu'il vous a beaucoup courtisé, non?
Quelle horreur!
Caroline.
Il cherchait une femme pour son cochon.
Et il nous a acheté les mêmes fringues.
Il vous appelait Prosciutto, vous.
Prosciutto, ouais, Mortadelle.
Elle avait pris un pseudo, c'était pas Caroline, c'était Vera. Oh. Dans ces cas-là, il faut faire une petite pause et on se retrouve tout de suite.
C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, Philippe Geluck, Jérémy Michalak, Isabelle Moutreau et Gaspard Proust.
De qui apprend-on dans France Soir grâce à Paul Vermus qu'il est candidat? Pourquoi vous vous marrez?
Alors, de qui apprend-on dans François, déjà, c'est drôle, et de Paul Vermus, encore plus hilarant.
Et qu'il est candidat à la candidature de la présidente des États-Unis, Barack Obama.
Ah, non. Il m'exclut de Paul
Vermus. De qui apprend-on grâce à Paul Vermus dans François qu'il est candidat non seulement à l'Académie française, mais éventuellement aussi au poste de secrétariat au tourisme?
Quel rapport?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins sur les voyages?
Non.
Il y a un rapport entre les deux.
Au sens large, alors.
Non, oui. J'essaie de faire un lien entre l'académie et le tourisme.
Ah oui, attends. Si, ça me dit quelque chose.
Et c'est un bon écrivain?
Non, à l'académie.
Non, c'est parce que comme il pense au tourisme, on doit se dire que ça, c'est peut-être.
Non, c'est pas un écrivain.
C'est le mec qui a écrit le guide du routard ou un truc comme ça?
Non.
Ah, c'est dans ce genre?
Non, mais il y a.
Goemio,
c'est pas Nicolas Hulot, mais
Michelin,
ça pourrait.
Michelin, un rédacteur du Michelin.
Est-ce que ça a été un chroniqueur?
Jamais. À moi, jamais.
C'est pas Jean-Pierre Coff.
Jean-Pierre Coff.
Justement. C'est l'autre.
Jean-Luc Petit-Renaud.
Bonne réponse de Philippe Gueluc. Qui appartient à cette maison Europe 1 et on est donc fiers d'imaginer qu'un jour peut-être
il pourrait s'occuper de la cantine. Il pourrait s'occuper de la cantine à l'académie c'est de la purée de brocoli, de la mousseline en sauce, enfin des trucs un peu faciles à mastiquer.
Non, mais je pensais pas qu'il était aussi ambitieux, l'Académie française quand même. C'est
oui, mais aussi
oui,
le,
mais
truc
aussi
du tourisme.
Le ministère du tourisme.
Oui, c'est vrai.
J'ai aucun rapport.
Oui, et puis c'est Paul Vermus qui le raconte.
Voilà. Ouais.
Bon.
Oui.
Dans voilà, François.
Voilà. À mon avis, ils devaient être bourrés tous les deux à table après un bon repas. J'imagine l'interview Paul Vermus, Jean-Luc Petit-Renaud.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Écoute, faut quand même que je te pose des questions.
Alors, je m'excuse,
on va bien picoler. Faut quand même maintenant que tu répondes à ma question. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Attends, je prends mon stylo.
Ouais, tu vois bien les mecs qui sortent de table à 18h, tu sais.
Et là, attends, Jean-Luc Petit-Renaud qui, après un repas, ne parle pas, il brute, comme à la radio, vous savez, il brute. Oui, donc il a bruité ses réponses. Il fait, j'aimerais devenir ministre du...
Fais-nous l'Académie française.
Alors là, il faut faire soi.
J'aimerais être admis à l'Académie.
Mademoiselle, j'ai fait sous moi.
Non, mais on lui souhaite à Jean-Luc, parce que bien franchement, sûr. D'ailleurs, vous pourriez vous-même être candidat à l'Académie.
C'est ça qui est intelligent, c'est d'avoir deux rêves en même temps. Je veux devenir maître du monde ou alors ouvrir une épicerie.
Tiens, à propos d'épicerie, on y trouve des bonbons et
la transition.
On l'appelle le roi de l'enchaînement.
Pourquoi The British Journal of Psychiatry déconseille de donner trop de bonbons aux enfants? C'est une étude qui vient d'être publiée. Étude qui portait sur 17 415 petits Britanniques.
Aucun lien avec Roman Polanski, hein?
Non.
Okay. Mais pour pas qu'ils grossissent, je sais pas.
Non, parce que si c'est psychologique, ça doit être autre chose.
Bravo, Caroline.
Ça rend violent.
Bonne réponse de Philippe Gueluc, les bonbons.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quoi? Les bonbons donnés aux enfants les rendent violents?
Non, le sucre, j'imagine.
Les bonbons rendent violents? Non, oui. Parce que cette étude montre que donner aux enfants des sucreries et des chocolats régulièrement peut les empêcher d'apprendre à patienter et les pousse à un comportement impulsif étroitement associé à la délinquance. Plus vous donnez de bonbons à vos enfants, plus ils deviendront délinquants.
Mais bien sûr, le problème, c'est qu'ils sont pas coupés à l'extasie.
Comment ce serait ou à l'héro, parce que ça peut calmer aussi. Quand t'es coupé à l'héro.
Pourquoi vous croyez qu'ils attaquent les vieilles dames dans les rues? C'est parce qu'elles ont des bonbons dans leur sac.
Évidemment, autrement, ils s'y prennent. Mais le bonbon rend, surtout quand tu tapes dans les bonbons, ça rend violent.
Oui, le coup de boule.
Le coup de boule dans les bonbons rend extrêmement violent.
Évidemment.
On apprend dans la presse aujourd'hui qu'il finit ses jours dans une ferme de Seine-et-Marne et ça, évidemment, a attristé de nombreux lecteurs de la presse quotidienne.
Jean-Luc Petit-Renaud.
Qui finit ses jours dans une ferme de Seine-et-Marne?
Donc un animal.
Oh. Un éléphant
dans une ferme de Seine-et-Marne qui finirait ses jours.
Ah, c'est pour ça que c'est triste.
Vous trouviez que j'étais fatigué en début d'émission et vous aviez raison.
Mais on voit
d'ailleurs. En même temps, c'est toujours sympathique de votre part d'avoir une pensée pour vos congénères.
Oh,
Mais on
Laurent
voit. Philippe. Je crois que vous ne les avez pas vus. Les agriculteurs en colère.
Non.
Qui déversaient du lait d'éléphant sur les champs.
Lait d'éléphant. Bah,
mais oui, bien parce qu'il y a tous les éléphants vieillissants vont dans les fermes de Seine-et-Marne et on les trait là. Il y a une surproduction du lait d'éléphant actuellement.
En même temps, c'est plus facile de les traire avec la trompe. Hein, il faut dire.
Est-ce que c'est un animal rare?
Ils peuvent se traire eux-mêmes.
Hein?
Pardon?
Est-ce que c'est un animal rare?
Un animal rare? Non. Non.
Est-ce que
non.
C'est l'ours? L'ours cannelle, là.
L'ours cannelle,
elle est morte. C'est un autre ours.
L'ours cannelle est devenue une descente de lit chez les bénichoux.
Non, alors, un autre ours?
Écoutez, les ours se suivent, mais ne se ressemblent pas, n'est-ce pas, Philippe, puisqu'on est dans la gaudriole à d'ours.
Ah oui.
Alors, est-ce que c'est un animal connu?
Connu? Oui, Philippe.
Qui a été médiatisé.
Oui, Philippe.
Flipper le dauphin.
Non, Seine-et-Marne.
Ah, le chien bidule, là, le chien de...
Rentemplant.
Le chien des Chirac.
Sumo, le chien des Chirac. Bonne réponse.
Ah, oui. C'est la même race que le mien.
Mais pourquoi?
C'est un bichon maltais.
Parce qu'il faisait rien qu'à mordre Jacques Chirac.
Parce qu'il a mordu Jaco.
Une nouvelle fois, hein, c'est ça. Parce qu'on savait évidemment qu'il avait déjà mordu le président.
Ça fait trois fois.
L'ex-président de la République.
Mais attends, moi, on m'appellerait Sumo, je mordrais tout le monde.
C'est après notre dîner que ça s'est passé, raconte Bernadette. J'étais en train de lire dans une pièce. Il était couché par terre, là, il parle du chien. Mon mari est arrivé et il a sauté. Ça saute très haut, un bichon. Il l'a mordu à l'estomac. J'ai eu très peur.
Non, c'est pas possible.
Non, l'estomac de Jacques Chirac, c'est un mec.
L'estomac de Jacques Chirac, vous avez vu la bête?
Il faut être un crocodile.
Je parle de Jacques.
Je vous lis ce qui est écrit.
Mais ça veut dire que bon, il peut m'attaquer à la tête, en fait.
Non, mais attends, ouais. Qu'est-ce qu'il avait vu?
Ah non, ça veut dire qu'il peut attaquer le dessus du crâne.
Non, mais un chien, c'est pas fait pour les plans à trois, quoi. C'est vraiment.
Non, mais qu'est-ce qu'elle foutait, Bernadette, après son dîner, la lèvre? Qu'est-ce qu'elle avait mangé?
Laissez-moi vous raconter le témoignage de Bernadette. Enfin, c'était après dîner.
Ouais, d'accord.
J'étais en train de lire dans une pièce. Il était couché par terre. Mon mari est arrivé et il a sauté. On imagine que c'est le chien. Ça saute très haut, un bichon. Il l'a mordu à l'estomac. J'ai eu très peur parce qu'il y avait du sang. C'est terrible. Il était déchaîné. Il voulait ressauter et remordre. Heureusement, comme je venais de le sortir, il avait encore sa laisse sur laquelle j'ai mis les pieds. Je l'ai enfermé dans la pièce d'à côté, porte fermée.
Mais moi, je trouve ça, ce récit est invraisemblable.
Comment c'est invraisemblable?
D'abord, imaginez la scène. Bernadette, après dîner, lit dans son salon.
Son boudoir,
avec son chien qui a encore sa laisse. Ça, déjà, c'est pas possible. Pourquoi ce chien aurait-il encore sa laisse?
Parce qu'elle venait de le sortir.
Oui, mais enfin, pourquoi elle enlève pas la laisse? Tu vois bien que c'est pas possible.
Attendez, peut-être j'ai mal lu la laisse, c'est le président qui l'avait.
Ah, bah voilà!
Parce qu'elle veut l'empêcher de sortir le soir.
Oui, elle met le pied sur la laisse, mais lui, pendant ce temps-là, le pauvre, il saigne, mais il
Vous
ne fait rien.
Elle devait lire le rapport du mouvement Attaque.
Voilà.
Et Jacques lui a dit, Bernadette, qu'est-ce que tu lis? Attaque, elle a dit. Voilà. Et le chien s'est jeté sur le président.
Oh non. Ah,
c'est beaucoup plus vraisemblable. Oui.
C'est à moi qu'on l'a donné, Sumo, mais mon mari l'avait tout de suite adopté. C'est presque devenu son chien. Il l'emmenait partout. Il avait ses habitudes qu'il ne fallait pas déranger. Ce chien était très heureux à l'Élysée. Et là, on sait pas. Il y a toujours une ambiguïté dans ses propos à Bernadette parce qu'on se demande si elle parle ou du chien. Ou de son mari. Elle dit, quand on est arrivé quai Voltaire, il a été malheureux. Alors qu'à l'Élysée, il était très heureux.
En tout cas, moi, j'aimerais vraiment saluer le formidable travail d'enquête des journalistes du Parisien.
Non, là, c'est de
dans l'appartement quai de Seine.
Voilà, mon chien a vécu dehors avec un grand jardin. Il parle de l'Élysée. Hein.
Oui.
Au palais, Sumo gambadait avec Scott, le golden retriever de Martin. Ces deux chiens étaient devenus des deux amis. Et on les a séparés. Ouais,
mais oui, mais c'est vrai, ça peut déprimer un chien.
Ça se trouve, ils étaient ensemble.
Il n'a pas supporté le départ de l'Élysée. Là, il continue à parler du chien, mais on se demande si évidemment elle ne joue pas l'ambiguïté. Il n'a pas supporté le départ de l'Élysée.
Et pourtant, on lui a expliqué un troisième quinquennat à Sumo, c'est pas possible.
Dans cet appartement, il a eu le cafard. Alors, il s'est mis à être agressif. Oui. Les Chirac ont donc placé finalement le pauvre chien chez des amis dans une ferme de Seine-et-Marne.
Ils auraient pu le laisser au couple môme. Qui habite actuellement, les enfants adorent les chiens.
Hein,
qui
oui,
sont
vrai,
actuellement
ça.
À l'Élysée.
Maintenant, quand on voudra dire une grosse vacherie, on dira monsieur un môme. Non, mais s'il saignait, le président, c'est.
Mais c'était une tache de pinard qu'il avait sur sa chemise. C'était pas du sang. Ouais.
C'est quand même incroyable parce que le français moyen, pour se débarrasser d'un chien, il l'attache au bord de la route en partant en vacances. Eux, vous vous rendez compte l'histoire qu'elle doit inventer pour
pour abandonner le chien.
Abandonner le chien.
Ils doivent être très malheureux.
Les pauvres. Ouais, ouais, ouais.
Ah bah surtout le président Chirac, parce que c'est quand même la dernière personne qu'il mordouillait un peu de temps en temps.
Ouais, parce qu'un bichon maltais, c'est quand même pas pareil qu'un gros pitbull, quoi.
Vous imaginez les types dans les banlieues qui se promènent avec des bichons maltais.
Oui,
ouais, c'est ça. Ouais. Depuis qu'on sait que c'est méchant.
Te fous pas de ma gueule, il a été dressé par Bernadette.
Ouais, ouais. En plus, alors je dis plus rien. Tiens, voilà mes armes, voilà ma carte, voilà tout, prends tout.
En plus, on lui a filé des fraises Tagada au clébard ce matin, c'est une vraie caillera.
Allez, d'autres questions après la pub.
16h, 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Profitez bien des questions sur l'actualité pour jouer avec nous et avec les complices de Laurent.
Nous allons avoir au téléphone dans un instant Dan Leclerc qui vient d'inventer quelque chose qui, paraît-il, fait un malheur au Japon. Qu'a inventé Dan Leclerc qui se vend, j'allais dire, comme des petits pains. Pas tout à fait, mais presque.
Oh, il y a un indice.
Ouais. Oh, un indice, pas tout à fait, mais presque.
Ça se c'est mange. Alimentaire. Ça se mange.
C'est alimentaire.
Ça se mange, voilà. Ça, c'est vrai.
C'est les baguettes.
Mais attention, ça n'est pas le seul intérêt ce qui se vend.
C'est les baguettes en biscuits. On les mange après avoir mangé le poisson cru. Comment ça serait formidable. Vous faites des baguettes, vous savez, comme les grésini, les trucs que les Italiens mangent avant. Ah,
comme si on mangeait les fourchettes, en fait.
Voilà. Ouais, exactement. Les fourchettes mangeables, ça serait
bien. Ouais, tu se casses, ça se casse pendant que tu manges, c'est con.
Il y en a que au Japon.
Alors écoutez, il y en aura partout dans le monde et on lui souhaite à Dan Leclerc, parce qu'apparemment d'abord il est français, qu'il a déposé son brevet à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, et que effectivement, après s'être envolé en juillet pour Pékin, il a réussi à vendre
des trucs au Japon.
Oui, ça c'est d'ailleurs
ça, c'est
le truc que je comprends pas là. Je vous jure que c'est pas Vermus qui a fait le papier.
Mais
la capitale du Japon, c'est bien connu.
Bon, ça a toujours
été
Pékin.
Est-ce que c'est normal que ça ait d'abord un succès au Japon? Il y a quelque chose à voir avec la culture japonaise.
Pas spécialement, mais peut-être que d'abord les Japonais aiment un peu plus les inventions que nous.
Mais c'est quelque chose qu'on trouve en boulangerie?
Dans certaines boulangeries, mais pas.
C'est une pâtisserie, c'est un gâteau.
Non, non plus. Mais
ça n'a rien à voir avec Salvatore Adamo, qui a beaucoup de succès au Japon et dont j'ai un peu la voix aujourd'hui.
Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille?
Mais je savais pas qu'ils étaient partis de votre catalogue. Mais on en découvre tous les jours.
Que vous êtes jolie. Oh là là. C'est formidable au fond.
Ah, donc c'est un truc qui se mange. C'est un truc qui se mange, c'est ça?
Oui, c'est un truc qui se mange.
Il a inventé les cuisiniers, Dan Leclerc.
Ah, moi je sais, ouais, je sais. C'est une religieuse avec une burqa dessus.
Non. Ah, c'est pas con, tu peux le faire avec une crêpe.
Une religieuse avec une crêpe sur la tête, absolument.
Et si tu fais, si tu veux faire.
Dépose un brevet,
dépêche-toi. Si tu veux faire le, si tu veux faire le bonze vietnamien qui s'immole par le feu, tu mets du Grand Marnier. Et...
Bon, alors,
ils
en tout cas,
c'est un bonbon.
Est-ce que, c'est salé?
Ce n'est pas un bonbon, Philippe. Est-ce que c'est salé? Alors là, pour le coup, oui.
C'est très salé?
Très salé même.
Ok, alors c'est
pas du sel, c'est tout simplement du sel.
C'est une sauce soja.
Une sauce au soja.
Une sauce soja.
Ah, une sauce.
Sauce soja.
Est-ce que c'est une, est-ce que c'est un condiment qu'il a inventé?
Non, c'est pas un condiment parce que Stevie.
Est-ce que c'est une.
N'a rien à voir avec cette question.
Est-ce que c'est du sel sous une forme particulière?
Pardon.
Est-ce que c'est du sel sous une forme particulière?
Oh,
ouais,
moi je.
Peut-être.
Reprends-toi, Laurent. Mais...
Ah non, je sais.
Peut-être une idée, mais c'est vraiment très 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 sale. Hein. Je sais pas si j'ose.
Allez-y.
C'est du fromage de bite en poudre.
Ah non. Non,
c'est du quoi, c'est du quoi.
Non. Non. Monsieur Proust, non.
Du coup... Pardon. Non. Vraiment, je suis désolé.
Non, ça a quelque chose de magique. C'est le.
Mais voilà, je sais. Alors... Je sais. C'est du sel. Du sel de l'Orient.
Non.
De l'Orient en France. Non. Et ils sont très contents au Japon parce que ça vient de l'Orient.
Ça va faire un malheur. Ça va faire un malheur aussi aux États-Unis et dans l'est de la France.
Qu'est-ce que ça a de magique? C'est quelque chose qui se transforme.
Dans l'est de la France
et aux États-Unis.
C'est une saucisse.
Pas une saucisse. Ne pensez pas qu'à ça, joujou.
Attendez, vous dites que c'est quelque chose de magique. Est-ce que c'est quelque chose qui se transforme d'un truc en un autre truc?
Une saucisse magique.
C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé de quoi il s'agit, il faudra en plus que vous me disiez qu'est-ce qu'il y a de magique.
De la coke à l'aspartame.
Non. C'est en deux mots. C'est le magique. Ça veut dire que d'abord vous allez trouver ce qui se mange, et ça c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé. Et après pourquoi c'est magique?
La péricube.
Saucisson magique.
Non. Non.
C'est votre surnom.
C'est-à-dire qu'il a le saucisson et il arrive à le faire disparaître.
C'est vrai.
Mais alors où?
On croit qu'il est sec et finalement après la personne fait aïe 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 aïe.
Le curly.
Le curly.
Un curly magique.
Non.
Un tuc, c'est un tuc magique.
Un tuc magique.
Des petits vaches qui rient.
Je vous ai quand même dit que ça aurait un gros succès aux États-Unis et dans l'Est de la France.
Le bretzel.
Le bretzel, ça y est. Alors, notre français a inventé.
Un bretzel.
Magique. Le bretzel magique.
Ah, tu peux pas t'étouffer avec.
Il se déplie.
Il se déplie.
Tu vois la forme du bretzel.
Non, il se déplie pas.
Eh ben, c'est un bretzel qui a pas la forme d'un bretzel.
Si.
Certement.
C'est un bretzel, mais on peut faire des pneus neige avec. Enfin, des chaînes.
Non, c'est un bretzel.
C'est un bretzel
pour saler.
Pour saler, oui.
C'est un bretzel qui a pas des gros morceaux de sel dessus collés.
Non, le bretzel, il est comme tous les bretzels, je vous ai dit. Sauf que, là, il y a deux bretzels.
On sort des lapins du bretzel.
Non!
Ah, ils sont,
c'est des bretzels enlacés.
Ils sont enlacés.
C'est des bretzels enlacés. Bah. C'est un collier de bretzel.
Et tu peux les défaire.
Tu peux les accrocher.
Tu peux les encastrer.
Exactement. Voilà comment.
Ça, c'est magique, ça.
Bah oui, vous avez deux bretzels qui sont fermés.
C'est-à-dire si c'est après l'apéro, ouais. Moi,
attends.
Il va nous expliquer. Bonne réponse, en tout cas, de je ne sais plus qui, Philippe Gueluc. Oh, Dan Leclerc, bonjour.
Bonjour Laurent Ruquier.
Est-ce que j'ai bien compris votre invention?
Vous avez parfaitement bien compris et les explications ont été parfaites, bravo.
Alors, attendez, que je comprenne. Il n'y a que vous qui réussissez à faire ça ou est-ce que si on achète ces bretzels, on pourra le faire nous aussi?
Alors, vous pouvez acheter les bretzels dans le commerce chez tous les marchands ou autres traditionnels d'épicerie, hein, des grandes distributions ou autres supermarchés. Mais le toucher magique qui va permettre l'enclavement des deux bretzels à vue mais malheureusement réservé pour le moment. Il sera possible. Il est possible si vous achetez le truc que je vends, mais si vous prenez un paquet de bretzels ordinaires, parce que ça marche avec des bretzels ordinaires, vous n'arriverez pas comme ça tout de suite d'une minute à l'autre à le faire.
Mais c'est un tour de prestidigitation alors.
C'est un véritable tour de prestidigitation.
Non mais alors, attendez, je comprends pas à quoi ça sert d'acheter vos bretzels si on n'a pas le tour pour
le
faire.
Non, le truc avec.
Je vends le tour pour les magiciens. C'est un tour qui est réservé au marché des magiciens, au marché international de la magie. Donc vous pouvez l'acheter, mais il nécessite néanmoins une certaine technicité pour arriver au résultat, je dirais, propre.
Ça cartonne au Japon, dans le milieu des magiciens.
C'est ça, d'accord. Vous seriez pas un peu doué pour votre com, Dan Leclerc?
N'en pensez-vous.
Vous n'auriez pas un pote à François?
Je n'ai pas, absolument pas.
Vous faites pareil avec les saucisses cocktail ou pas?
Oui, aussi, parce que je suis bouché de métier. Vous imaginez, hein.
Ah non mais c'est n'importe quoi. On vient de perdre 10 minutes là.
Vous venez pas de perdre, au contraire, vous venez de gagner.
Alors, parce que moi je pensais, franchement là, quand même une demi-page dans France Soir sur cette affaire. Moi je pensais qu'on pouvait tous acheter les paquets de bretzels.
Ah, vous pouvez.
Et puis faire tous la même chose, c'est
mais
ça.
Mais ouais, non mais même, vous vouliez encastrer des bretzels et so what.
Bah si, parce que ça pour les amis c'est rigolo.
On se fait chier chez vous, merde.
Venez toucher l'enfant qui est les bretzels. Merci, franchement. Yes. Oh, on commence par les bretzels.
Voilà, c'est ça, oui. Après, on sait pas qui on termine, je sais.
Mais non, mais franchement,
ça
c'est rigolo. Mais si, en soirée, Noël, réveillon, en famille, un petit truc. T'es là, t'as des bretzels, tout le monde croit que c'est normal. Et puis, t'arrives, t'en prends deux, regardez ce que je sais faire, tac. Tac.
Formidable. Et ça
un succès auprès de la famille.
Laurent, et ça vous a coûté 20 000 euros pour acheter le tour.
Et ça cartonne au Japon.
Et en plus, tu sais pas le faire si t'as pas de prestigitateur.
Non. Le tour est bien sûr faisable une fois que vous avez acquéri le truc et la méthodologie.
Mais pourquoi alors vous vendez pas le tour en même temps?
Parce que tout simplement l'exclusivité de ce tour et l'idée est que justement tout le monde ne puisse pas le faire pour que ça reste magique. Si tout le monde pouvait faire de la magie comme ça serait.
Alors, où on va l'acheter le tour?
Alors, vous allez l'acheter dans toutes les boutiques de magie.
À Pékin, au Japon. Ouais, mais ça m'intéresse. C'est que je vais être magicien sur scène l'année prochaine puisque avec Isabelle Mergo nous allons monter sur scène ensemble dans une pièce qui s'appellera Un couple magique où je vais jouer le magicien et Isabelle Mergo mon assistante. Donc celui-là, je suis très intéressé parce que je sais évidemment qu'il y a des tours et d'ailleurs on va travailler sûrement avec un magicien. Allez savoir si vous êtes pas trop cher et si vous me montrez le coup du bretzel. Pourquoi pas vous?
Ça peut faire un carton.
Mais quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Ça peut faire un carton.
Ah, il y aura beaucoup de japonais dans la salle.
Des cartes de japonais.
Vous viendrez jouer ça dans la salle.
Non, mais Mergo va être en lévitation et tout. Attention.
Il la découpe avec un bretzel à un moment donné.
Gaspard.
Ouais, non, moi j'ai juste une question parce que en fait j'ai loupé les 10 minutes, je me suis endormi au bout de 5 et je voulais savoir. Comment vous est venue l'idée? Vous étiez sous un arbre, un bretzel est tombé, et là vous êtes dit, ah boum, je vais faire de la... Enfin, je sais pas, c'est ça qui est intéressant.
Ou dans sa baignoire,
dans votre baignoire, ou...
Tout simplement, lors d'une prestation en 2006, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard Majax. Et à la suite d'un spectacle, l'ami Gérard Majax m'a dit « C'est bien ce que tu fais en magie, mais si t'es alsacien, tu devrais faire un truc avec des bretzels. Ça serait beaucoup plus vendeur et puis ça serait original. Tu ferais un truc que les autres ne font pas. »
Vous êtes sans doute un formidable magicien parce que vous nous avez fait un bon tour aujourd'hui.
On vous applaudit, Dan Leclerc.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite un très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1, un après-midi qui ne peut être que bon puisque nous sommes toujours avec Laurent Ruquier et avec ses complices pour On va gêner.
Pourquoi parle-t-on beaucoup de l'université de Bilgi ce matin dans la presse? Que s'est-il passé? Qu'on montre même des images de ce qui s'est passé là-bas.
Parce que c'est là où Michael a écrit Billie Jean.
Ouais. Non, pas du tout.
Bilgi, c'est en Inde.
C'est pas en Inde.
Il y a un Bilgi en Inde.
Si je vous dis où, ça va peut-être vous aider à trouver la bonne réponse. Ah oui, c'est pas aux États-Unis. L'université de Bilgi.
C'est à Copenhague?
C'est pas à Copenhague.
C'est en Belgique?
Oui. C'est pas en Belgique. C'est bien, je vois que vous mettez au niveau, Isabelle.
Ah bah oui, j'essaye. Hein.
La Belgique.
Isabelle vient de sauter, là.
La Belgique, dont la capitale est Bretzel.
Les choux de Bretzel. Connu.
Qu'on en casse, comme tout le monde sait.
Alors, Bilgi a une université, puisque là-bas,
il s'est passé quelque chose.
Ah oui, un étudiant qui s'est fait remarquer, je vous aide un peu quand même. Là.
Ah, en Turquie, c'est lui qui a lancé la godasse sur Strauss-Kahn.
Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Mais oui.
En plus, j'avais lu. Un nouveau lanceur de chaussures qui n'a pas atteint Dominique Strauss-Kahn. Oui. Je sais pas si vous avez vu les images. Il y a en revanche quelqu'un qui reçoit un peu la chaussure sur le. En fait, peut-être qu'il visait très bien, mais la chaussure, c'est un peu comme quand il y a un coup franc puis qu'il y a un mur. Ouais. La chaussure a été un peu détournée par la tête de quelqu'un qui se situait entre Strauss-Kahn et le lanceur. Bon,
c'est un peu à l'image de la Turquie. La Turquie vise l'Europe, elle l'aura jamais.
plutôt généralement, ils visent bien les Turcs. Regardez leurs chiottes.
Non mais.
Oh là là.
Ah, bah si.
Qu'est-ce que vous en savez?
Alors donc. Les bretzels, les chiottes à la turque. Qu'est-ce qu'il y a après?
Il n'y a pas de chiottes à la turque, là on est alors vous Strauss-Kahn.
Il y a beaucoup de gens, il y a un type qui a arrêté la chaussure avec la tête parce qu'il n'avait pas le droit de le faire avec la main, sinon il y avait un coup de coin et il devait relancer la chaussure.
Il y avait corner.
Ah non, c'était Anne Sinclair, paraît-il, était dans tous ses états. Elle s'est dit, mais qui est cet homme qui a voulu lancer une chaussure sur mon mari alors qu'elle fait ça tous les soirs vers 2h du matin quand il rentre?
C'est avec un rouleau à tarte, ça.
Tous les soirs quand il rentre, Anne a ses deux chaussons roses à pompons, j'imagine, tu sais. Ça portait toujours des trucs un peu en gora, là, rose.
Oui, des bulles avec des longs poils.
Je la vois bien, elle est
juste féminine.
Elle doit avoir deux paires de mules roses à pompons, elle doit être dans le lit, Anne. Et quand il rentre vers 2-3 heures du matin après une conférence, parce que évidemment quand il sort tard, c'est pour des conférences.
Très long séminaire, oui.
Et des longs séminaires. Et là, paf, elle doit faire ça. Donc c'est pour ça qu'il a esquivé, je trouve. Parce qu'il a l'habitude. Hop là! Elle l'entraîne toutes les nuits. Hop là! Un escarpin! Non mais quand même, c'est devenu une vraie mode, hein, il faut le dire, cette affaire.
De lancer des chaussures.
Ah oui. Avant c'était la tarte à la crème de notre ami belge le gloupier. Aujourd'hui on en est à la chaussure.
Je trouve ça plus humiliant la tarte que la chaussure.
Oui,
la chaussure, honnêtement, je trouve ça pas très humiliant. C'est pas pour ça que j'aimerais m'en prendre une en sortant de.
Surtout.
De la radio.
Ça fait plus mal quand même.
Non mais c'est surtout que c'est complètement idiot pour le mec qui lance la chaussure, parce que qui sait qui part en clopinant après comme ça. C'est lui, c'est ridicule.
Ah mais tu peux en prendre une dans ton sac.
Arriver avec ses munitions en plus.
Tu amènerais ta propre chaussure.
Bien sûr, la chaussure est quand même le truc le plus facile à voler.
C'est pour ça d'ailleurs que Guillaume Depardieu a longtemps été soupçonné.
Moi j'aimerais bien prendre plutôt des chaussures. C'est Edouard Balladur a de très belles chaussures. S'il a ma taille, qu'il me les jette dessus, j'aimerais bien.
En plus, sachez qu'il est né en Turquie.
C'était la transition.
Il déteste qu'on le dise. Ah oui, il est né en Turquie.
Ah oui, il est né en Turquie.
En Turquie, Edouard
Balladur. À Smyrne.
En Turquie, Edouard Balladur.
On n'a pas une culture qui date du matin dans le Parisien, nous, Michalak, on sait des trucs, vous voyez.
Mais vous savez que la chaussure, je dis bien la chaussure, pas les chaussures, mais la chaussure est la chose la plus commode à voler. Puisque devant les magasins.
Ah, Joujou attaque Laurent avec une chaussure.
Je viens de blesser mon Joujou.
Puisque devant les magasins de chaussures, vous avez des paniers avec des chaussures seules.
Oui, c'est vrai.
Des chaussures seules. Parce qu'il les surveille même pas, puisqu'il dit, il y a personne qui va piquer une chaussure. Eh ben, si, ceux qui vont lancer des chaussures.
C'est la fin des bacs à chaussures à une chaussure.
Exact.
J'avais pas pensé à ce. Vous rendez compte, à si cette la, conséquence si la dramatique.
Si la Turquie rentre dans l'Europe, c'est la fin des bacs à chaussures.
Allez, on se retrouve après les titres de 17h.
C'est convenu, on se retrouve tout à l'heure, Laurent, avec votre équipe.
Le temps passe. Ne faites pas attendre les belles de ville, les citadines de Suzuki Automobile.
Merci d'écouter Europe 1, il est tout juste 17h.
Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner.
C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Gaspard Proust, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau, Caroline Diamant et Philippe Alfonsi. Et Adrienne qui habite Levallois-Perret.
Tu fais bien Rocky aussi. Hein.
Bonjour Adrienne.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites à Levallois? Oh, dis donc, on n'avait pas déjà quelqu'un de Levallois hier.
Courbevoie.
Ah, c'était Courbevoie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à Levallois-Perret, Adrienne?
Je suis violoniste.
Violoniste, waouh!
Dans le métro de Levallois ou vraiment?
Non, vraiment, j'évite de jouer dans le métro de Levallois.
Dans un orchestre, un quatuor?
Je fais de l'orchestre de temps en temps, puis je donne des cours.
Cours de violon. Vous avez des voisins?
Oui, tout à fait.
Ah, merde, c'est mais quand on joue bien, ça va. Hein, c'est...
Oui, mais elle donne des cours. Donc... Elle joue peut-être bien, c'est les petits chiards qui viennent.
Non mais ils sont au conservatoire, je vous rassure.
Ah oui, je suis en forme.
C'est le bruit du violon qu'on aime bien. C'est imitateur et bruiteur.
Vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là? Le temps que j'interroge Frédéric, votre adversaire, vous allez évidemment aller nous chercher votre violon et nous en jouer un petit morceau.
Ah oui.
Voilà, ici, parce que c'est pas tous les jours qu'on entend du violon sur Europe 1. Bon, il y a eu une interview du frère de Rachida Dati ce matin, certes, mais quand même, on n'en a pas tous les jours.
Bah non, en hommage à Roman Polanski qui est lui-même au violon pour l'instant.
Évidemment. Ouais. Alors, Adrienne, vous allez chercher votre violon, c'est promis?
Peut-être pas, mais on si je gagne.
Ah non, pas de chantage. Moi, je dis plutôt que si vous,
voilà, si allez vous chercher votre violon,
vous pourrez gagner. Peut-être. On vous avantagera un peu.
Cela dit, Adrienne, vous mettez un disque d'un truc de sous les violons et personne n'en saura rien.
Ben ouais, un vieux truc de Catherine Lara, vous avez bien encore un...
On va entendre la voix de Catherine Lara.
L'imagine.
Pas chelou du tout.
Elle est de Levallois, elle est pas belge, Adrienne, quand même. Frédéric est à Touvet. Bonjour Frédéric. Ou au Touvet, comment on dit?
Oui, voilà.
Au Touvet, c'est où le Touvet?
C'est à 25 km de Grenoble.
Ah très bien, je connaissais pas. 25 km de Grenoble, qu'est-ce que vous faites au Touvet?
Le Touvet, c'est le Touquet qui a échoué.
Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, allez-y, on n'a pas entendu Gaspard.
Non, le Touvet, c'est le Touquet qui a échoué. C'est pour une consonne.
À peu près.
Non, c'est rien, tout va bien.
Il y a combien d'habitants au Touvet?
3000.
Ah, c'est génial.
Ah, quand même.
3000.
L'équipe de foot... Les filles d'or de votre village.
Je ne suis pas sûr que il doit y en avoir une.
Ah, bah oui, parce que les supporters. les supporters ce mois-là sont des célèbres cuisiniers qui font tout à la vapeur, c'est ça? Allez, Touvet!
Alors là. Waouh!
Vous m'avez dit que vous faisiez quoi au Touvet, Frédéric?
J'étais informaticien.
Informaticien, très bien. Est-ce que vous êtes prêt à écouter un peu de violon, Frédéric?
Oui, j'adorerais.
Alors, Adrienne est-elle prête pendant ce temps?
Prête à répondre, oui.
Mais ah, non, non, non,
elle est timide.
Mais elle a peut-être pas son violon avec elle.
Mais
voilà, c'est ça, je suis partie en vacances, j'ai pas mon violon avec moi.
Tu parles.
Vous
passez
pas
des
vrai.
Vacances à Levallois-Perret, vous?
Non, je passe des vacances à Amboise. Attends, là, actuellement, je suis à Amboise.
Attends, si ton chef d'orchestre t'entend, il va te virer parce que les musiciens doivent travailler tous les jours.
Parce que franchement, quand on fait du violon, c'est pas parce qu'on aime.
C'est vrai, c'est surtout mes élèves qui vont pas supporter que je travaille pas en vacances.
Et puis en plus, quand on fait du violon, on le fait pas parce qu'on aime cet instrument, on le fait parce que c'est pas parce que c'est facile à porter, que...
Bah oui, parce que sinon, pourquoi faire du violon?
Pourquoi faire du violon?
C'est comme l'harmonica.
Ben voilà, ouais, pareil.
Et la flûte à bec.
Et la flûte à bec. Autrement, on fait des vrais instruments, du piano,
tambour.
Du tambour.
De la trompette.
De la batterie, mais voilà.
Du triangle.
Ou alors c'est qu'on a de l'eczéma, puis qu'on aime se gratter l'épaule de temps en temps, mais autrement.
Non, mais surtout.
Ou alors c'est qu'on a la tête un petit peu penchée, et qu'on veut mettre un truc en dessous.
Pour se caler,
ouais. Ouais, un petit double menton qu'on veut masquer, quoi.
Non, pas de violon.
Je baladure en train de jouer du violon.
Ouais, c'est pas
génial.
Oh là là.
Ça,
il enfonce, et sans les mains, hein.
Non, mais il peut pas parce qu'il y a le menton sur les cordes. Ouais. Bah,
Baladur ou Gérard Larcher?
Alors là, je reste dans les tubés, c'est mon joujou, ça.
Alors là, joujou.
Ah, ça, jamais les choses à moitié. Double menton.
Et je me permettrai de citer un dessin du chat. Vous savez, ce personnage que j'aime beaucoup.
C'est Casterman,
C'est parce qu'il joue du violon et il dit, si je joue avec mes tripes, c'est parce que les cordes sont faites en boyau de chat tressé.
Allez,
Touvet, allez Touvet. Bon, allez le Valois-Perret aussi, voici la question. Je vous dis tout simplement que le 24 septembre dernier, à Tokyo, on a présenté le U3X.
C'est le nom du bretzel magique.
Non, le U3X qui peut aller jusqu'à 6 km/h. C'est Honda qui va le fabriquer. Mais de quoi s'agit-il ?
C'est 5 secondes.
C'est un outil de mobilité personnelle.
C'est-à-dire ?
Un outil de mobilité personnelle selon Honda. C'est un moyen de transport qui se déplie, qui est en forme de siège.
Oui, mais il y a quelque chose, d'essentiel que vous nous avez pas dit.
Une paire d'enceintes portables.
Non, non, non.
Parce c'est un truc pour se déplacer.
Ah, vous l'avez dit, Frédéric. C'est fait pour l'appartement, voilà. C'est pour rouler chez soi, à la maison.
Mais oui, c'est... surtout au Japon, c'est intéressant d'appartement. Parce qu'ils ont 2 mètres carrés en général. Chez Perry Cochin, je comprendrais, mais pas chez les Japonais.
C'est un tabouret automoteur, en quelque sorte.
Tabouret qui bouge, mais quelle idiotie.
Ben non, pour les gens âgés.
Destiné à la circulation en intérieur.
Ou pour moi, d'ailleurs.
C'est ça que j'attendais, en appartement, en intérieur. C'est pas fait pour aller dehors, voyez, Adrienne.
C'est vachement bien, ça.
C'est... J'ai lu sur Internet, mais peut-être que je...
Ah ben moi, mon article me dit que le U3X est le nom de code d'un monocycle électrique destiné à la circulation en intérieur, à la maison.
Je suis d'accord avec Laurent, moi.
Donc c'est 6 km. 6 km/h, c'est ça la vitesse ?
6 km/h.
Ah, donc il faudrait une heure pour aller dans la salle de bain, en fait.
C'est bien. Tu veux m'épouser ?
Adrienne, je suis désolé, hein, je crois que c'est Frédéric.
Ah bah moi aussi, hein.
C'est Frédéric qui a donné le petit...
Ah bah elle avait qu'à jouer du violon.
Ouais, ouais. Ah oui, en même temps.
Ah ouais, elle a fait ça difficile. Ah,
voilà. On lui avait dit, hein.
On lui avait dit qu'on l'aiderait. Ouais.
Frédéric, vous allez quitter le Touvet pour la Mer Rouge.
Ah. Wow.
Vous allez embarquer avec Croisimer pour une croisière à la découverte des trésors de la mer Rouge qui vous emmènera à la rencontre des merveilles de l'Égypte et de la Jordanie. C'est une croisière francophone d'une semaine avec des vols au départ de Paris, Lyon, Lille. Vous pourrez visiter le site de Petra, la vallée des rois, Petra. Et Louxor en Égypte. Vous gagnez ce voyage en pension complète pour 2 personnes, 7 nuits à bord d'un bateau de 100 mètres de long. Seulement
2 mètres de large, malheureusement.
Seulement 200 passagers.
C'est une pirogue.
Un bateau qui reste à taille humaine. Une magnifique croisière avec excursion. Vous passerez par Suez, par Petra. Ah là, je l'ai bien vendu. Hein.
Oh ouais, ah oui,
bien,
là, c'est bien, c'est bon.
Ah là, là. Oui. Je pense qu'un jour... Ça. Un jour, je vais finir par chanter Cuitas les patanas, moi.
Ah non, un jour, vous allez remplacer Julie.
On vous applaudit, Frédéric. Vous êtes content quand vous partez avec qui, Frédéric ?
Avec ma petite chérie.
Comment elle s'appelle, la petite chérie ?
Noémie.
Noémie. Oui. Noémie et Frédéric, vous partez pour l'Égypte. Adrienne, il va falloir rentrer maintenant à Levallois-Perret pour retrouver votre violon. On vous embrasse quand même.
Jusqu'à 18h30 sur votre radio, vous le savez, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. On continue de rire, de s'amuser, le tout en posant quand même des questions sur l'actualité, donc en se cultivant tout de même.
Ah ça y est, vous pouvez vous inscrire pour les 20 et 21 novembre prochains. Le site internet est ouvert, mais attention, il faut vous inscrire jusqu'au 21 octobre. Pour faire quoi faut-il s'inscrire avant le 21 octobre ?
Alors est-ce que tout le monde peut s'inscrire ?
Faut avoir un peu d'argent quand même, vous voyez.
Pour aller sur la Lune ?
Parce que ça va quand même vous coûter, non pas pour la Lune, 380 € ou 1380 en fonction de vos moyens.
C'est un tournoi de poker ?
Pardon ?
Un tournoi de poker ?
Non, pas du tout.
C'est un voyage ?
Non, non.
C'est pas les vols à bord de la 380 ?
Vol inaugural vers les États-Unis.
Le vol inaugural ? C'est les premiers vols ? Non, il y a eu des mises aux enchères des places.
Des enchères sur, bah, sur Internet.
Bonne
voyages.
Réponse
oh non,
attends. Jérémy Michalak.
Oh, je m'élève.
La fierté qu'il a quand il dit bonne réponse. Et de Joujou.
J'ai posé la question, s'agit-il d'un voyage à laquelle on m'a répondu non.
C'est
quand même de l'ordre du voyage.
J'ai pas entendu que vous... Et pourtant, Dieu sait que je bois vos paroles, chère Isabelle. Mais j'ai pas entendu. J'étais ailleurs à ce moment-là.
Bon, les États-Unis, c'est pas un voyage, c'est une expérience.
Voyage intérieur.
Pourquoi vous n'aimez pas les États-Unis, Gaspard Proust ?
Ah non, c'est formidable comme pays, c'est super, c'est génial.
Vous y êtes allé déjà ?
Non, jamais. Non. Moi, j'ai peur de l'avion, donc j'irai jamais.
Ah oui, c'est vrai ça. Alors,
non, mais je pense que l'histoire est en Europe centrale, tout le reste. Pour le reste, il y a des cartes postales, il y a des documentaires. Enfin, j'ai jamais compris les gens qui voyageaient, quoi. Enfin, Proust a dit que le seul véritable voyage, c'est de regarder le monde à travers les autres. Enfin, il y a tellement de gens qui trouvent que ça n'a aucun sens, quoi.
Il y a de la douleur chez ce jeu.
Oui, oui.
Il ouais, y a une sorte de malaise.
De la douleur ou de l'économie.
Je suis d'accord avec lui, voyage. voyager n'a aucun intérêt. Les films et les photos, ça sert à quoi?
D'ailleurs, vous nous avez ici développé une théorie il y a peu de temps qu'il faudrait interdire les voyages aux pauvres, je me souviens.
Ah, mais bien sûr. Alors, attendez, je veux bien développer, j'avais dit qu'il fallait absolument combattre les compagnies low cost. Parce que pour 3 francs 50, vous allez de l'autre côté de la Terre et c'est ça qui fout vraiment le CO2 dans le truc. Donc les auditeurs m'ont dit, mais quoi?
Vous êtes contre le low cost?
Vous êtes... Vous trouvez que les pauvres ne peuvent pas voyager, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi depuis et je me rends compte qu'effectivement... Les grands problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est à cause des pauvres. Parce que quand...
Démocratisation du voyage.
Mais de tout, regardez. Quand il n'y avait que les riches qui avaient une voiture, y avait-il des embouteillages? Non. Quand seuls les riches partaient en vacances au bord de la Côte d'Azur, est-ce que les bords de la Méditerranée étaient pollués par ces immeubles immenses?
C'était beaucoup
non,
plus beau.
C'était Gaspard. Magnifique.
Non, mais je m'inscris en faux. Enfin, j'aimerais réagir à froid sur ce qui vient d'être dit. Et c'est scandaleux ce que dit cet homme-là. Je veux dire, l'Afrique, bon, ce sont des pauvres, c'est évident. Je veux dire, c'est des gens qui ne polluent absolument pas. Donc, ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage de ne pas prendre EasyJet et d'autres compagnies low cost qui sont vraiment très low cost.
Mais je suis
pourquoi
bien d'accord avec
Et j'aimerais vous. Vraiment me demander pourquoi. Mais Pierre Bénichoux n'est pas là pour rebondir.
Je voudrais rendre hommage aux pauvres méritants. Qui ne pollue pas parce qu'il ne voyage pas.
Et quand il quitte l'Afrique, nage.
Voilà. Et qui mange peu. Donc, qui ne sont pas responsables de déversements de pesticides.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. N'oublions pas que l'Afrique, c'est Koh-Lanta sans la promesse du rapatriement.
Non mais c'est immonde ce qu'on dit cet après-midi ici, vous vous rendez compte, c'est une émission grand public cette émission.
Non, vous ne me dites pas que des pauvres nous écoutent. Ah, non.
Sinon on arrête. Hein.
C'est vrai que ce serait le comble.
Ah non, quelle horreur. Je crois...
Si vous voulez combattre RTL...
Ah, c'est exotique.
Non, ceux qui doivent écouter RTL, ce sont des malheureux, ça c'est sûr. Ici nous parlons d'économiquement faible,
en tout cas,
mais c'était quoi votre question?
Vous pourrez vous inscrire pour ce voyage Paris-New York Air France en... Moi j'aimerais pas être
en
du voyage inaugural.
Ah non,
sur le premier,
jamais,
non.
Surtout qu'on est à 2 ans de l'anniversaire du Titanic.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Ah oui, mais vous savez.
Mais quel rapport?
Non, mais la 380, c'est un gros bateau.
Mais dans 2 ans, c'est l'anniversaire du 100 ans du Titanic.
Je te rassure.
Les débuts de siècle, il y a toujours des catastrophes.
Non, c'était un bateau.
Les débuts de siècle.
Oui, je sais.
Les débuts de siècle, on est en 2010.
Il me regarde comme une vraie blonde.
Je te rassure, Caroline, avec la fonte des pôles, l'avion risque peu de percuter un iceberg.
Non, mais.
C'est pour ça que je crois pas, moi, au réchauffement de la planète, parce que regardez, même Caroline, elle a du mal à fondre. Hein. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions, évidemment.
On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, et c'est avec Laurent Ruquier.
C'est vrai que Philippe Gueluc me faisait remarquer pendant ces quelques réclames que nous avons évoqué le Titanic sans que moi-même je lui réclame justement le fameux, on va dire, running gag de l'émission depuis 10 ans qu'on fait On va se gêner. Je crois même qu'on a démarré sur France Inter avec
bien
ça.
Sûr, bien
c'est
sûr,
ce qui a fait notre succès commun.
C'est pour ça que c'était pas Jean-Pierre Cabage, mais c'est pour ça qu'Europe 1 nous a appelé. Ils pouvaient pas supporter qu'on fasse ça à France Inter et pas chez eux.
Alors voilà, c'est le running gag. Vous y avez le droit une fois par an. Et je pense que pour les 10 ans de l'émission que nous fêterons à l'Olympia, maintenant je peux donner la date. Le 21 octobre prochain, si vous aimez l'émission, si vous habitez Paris, les régions, prévoyez déjà un voyage jusque dans la capitale pour venir fêter avec nous pendant plus de 3 heures notre 10e anniversaire. On va se gêner à l'Olympia le 21 octobre avec les chroniqueurs du moment, mais ceux qui ont participé, qui sont encore vivants.
Même ceux avec qui on est fâchés.
Oui.
Oh non, t'avais dit pas tout le monde.
Il y en a, c'est vrai que je préfère pas rappeler moi-même.
Non, faut réfléchir avant de dire ça.
Laurent,
tu le regretteras, tu sais.
Ils peuvent venir, mais dans la salle.
Chut, on n'en avait pas dit.
Et encore, il y en a, je suis pas sûr.
En payant leur place.
Mais non, on sera tous ravis. Vous savez comment ça se passe, cette émission?
Ça va être le grand pardon, le jour du grand pardon.
Mais non, pas du tout.
vous aurez un flingue.
On est absent une année, on revient l'autre. Voilà, c'est. Regardez Claude, par exemple, s'était absenté pendant presque un an, elle est revenue. Isabelle Alonso revient la semaine prochaine.
Bien sûr. Jacques Martin sera là, bien sûr.
Il y a des gens qu'on peut pas faire revenir. Mais voilà, on invite tout le monde et surtout évidemment les auditeurs d'Europe 1 le 21 octobre prochain à l'Olympia. Et vous, Philippe, évidemment, alors, vous préparez votre sketch principal.
Bien sûr, je vais le répéter devant.
Sur les dernières minutes du Titanic.
Mais oui, c'était ça. Donc vous vous souvenez.
Petite répétition.
Je vous répète. Ouais.
En gros, je vous rappelle.
Une fois par an, ceux qui suivent l'émission depuis plus de 10 ans.
Non, mais on s'en lasse pas. Hein.
Restez là, même si vous connaissez.
Vous savez que depuis, en fait, je fais des ménages. Oui. Donc je vais dans les familles pour les anniversaires, les bar mitzvahs. Même on me l'a demandé pour des enterrements, pour un petit peu détendre l'atmosphère.
Là, c'est une circonstance.
Donc je vais le faire. C'est donc, on est sur le Titanic qui vient de heurter l'iceberg et il coule et les gens, l'orchestre continue à jouer, évidemment. Et les gens chantent. Alors, ils étaient un peu enroués parce qu'il faisait très froid.
Évidemment.
À cause de l'iceberg, évidemment. Et puis ça avait jeté un froid un peu ce truc.
Évidemment.
Et donc, ils chantaient « Plus près de toi, mon Dieu ».
Eh oui.
Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Bon, ça, c'était au début. Et puis, le bateau s'enfonce. Et donc, vers la fin de l'enregistrement, on entend ceci. Plus près de toi, mon Dieu.
Mesdames, messieurs, Philippe Gueluc à l'Olympia, le 21 octobre.
Et après ça, en tournée dans toute la France.
L'entrée sera gratuite à l'Olympia.
Il faudra vous
présenter, on vous donnera les horaires et tout, mais un petit peu avant, évidemment, dans la limite des places disponibles, il y aura au moins 1000 places pour assister à cette émission qui sera en plus diffusée sur France 4. Non, mais on va revoir des copains.
On n'a pas de copains.
Mais si, enfin Jean-Bernard Hébé, Sophie Garel.
Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est sympa.
Oui, ça va être sympa. On va revoir Judith Magre, qui est pas venue depuis un petit moment.
Ah oui.
Judith, ouais.
Ah,
oui,
le Bolloc.
Le Bolloc, qui j'espère viendra avec sa guitare.
Ouais. Enfin, non. Non, on a dit un truc festif.
Ouais, déjà,
non, comment elle s'appelle, qui avait un rire très aigu, Ron Hartner.
Bah oui, évidemment.
Voilà, oh oui, il faut
Jacques Rabat, il était là cette semaine avec
génial.
Nous. Il sera là, évidemment.
Ah, mais il faudrait lui demander sa clarinette. On peut vous faire un duo.
On peut préparer une petite choré. Non, c'est filmé.
Je sais pas, j'étais encore en train de chercher quel talent de société j'allais vous demander, mais j'avais une idée, mais je sais pas si on peut la diffuser sur France 4.
Oh bah après minuit avec un gros rectangle blanc. Mais pas tous les chroniqueurs. Je suis fatiguée.
À tout de suite avec Serge Delgado, qui sera là aussi.
16h-18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier.
On va se gêner.
C'est toujours On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Philippe Gueluc, Caroline Diamant, Gaspard Proust, Isabelle Motreau et Jérémy Joujou Michalak. Et maintenant nous passons à l'actualité en chanson.
Europe 1, On va se gêner. Do, Ré, Mi, Fa, Si, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut les copains.
L'actualité en chanson en ce vendredi avec le procès Clearstream, expliqué aux enfants.
Bah oui, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Donc il m'a semblé que raconter à la manière de Chantal Goya, ça serait quand même beaucoup plus simple.
Essayons.
Clearstream, ça devient monotone. Quel feuilleton nul ce procès. Ça n'accroche vraiment personne, même pas à un croc de boucher. Sarko dit depuis des semaines, c'est moi la victime pourtant. À lui seul, il cache quand même les 40 autres plaignants. Quand au G20, pris soudain d'un accès de fureur, il parle de coupable, lui, lapsus regrettable. Oui, les beaux mecs comme Villepin, ça lui fait horreur. Il aime pas les mannequins, lui, sauf Carla Bruni. Mais Villepin, l'autre matin, a fait un malheur. Avec ses beaux cheveux gris, on le voit déjà blanchi. Ce coquin de Villepin nargue le procureur. Un brave procureur qui roule pour Sarkozy.
Bravo Serge Liado, et ça me rappelle.
Ça me rappelle
Virginie Lemoine, je parie.
Ça me rappelle pas Virginie Lemoine seulement, ça me rappelle aussi le fait que c'est quand même Chantal Goya qui a lancé cette grande mode actuelle du soulier qui vole. Le soulier qui vole, c'est Chantal Goya.
Mais,
oui,
mais je voudrais dire oublié. Tout de même à Serge que dire que chanter du Chantal Goya, c'est expliquer aux enfants, c'est pas vrai, c'est plus l'idole des enfants, c'est expliquer le procès Clearstream à la communauté gay.
C'est pas faux, c'est pas faux. Merci bon, Serge. Bien, à lundi, bon week-end.
Salut.
Philippe. Vous allez nous parler de Pierre-Christian Tétinger. Évidemment, son nom dit quelque chose à tous ceux qui aiment le champagne, n'est-ce pas, Caroline oui. Diamant. Et d'ailleurs, évidemment, il était membre de cette célèbre dynastie du champagne, mais c'était surtout un avocat, un industriel et un homme politique.
Oui, alors, donc, mais parlons quand même du patronyme d'abord.
Hein, Tétinger.
Voilà, bon, c'est un patronyme Tétinger.
Si on en parle, évidemment, si bon. Philippe Alfonsi en parle, c'est parce que Pierre-Christian Tétinger est décédé à 83 ans, tout récemment.
C'est donc le nom d'une dynastie de grands bourgeois, alors qui, comme vous venez de le rappeler, sont propriétaires des vignobles de champagne qui portent leur nom, propriétaires de d'hôtels de luxe, d'hôtels très très prestigieux, mais aussi d'une de petites chaînes d'hôtels très populaires. Il faut être il en faut pour tout le monde, mais absolument. Et puis propriétaires d'un parc immobilier absolument phénoménal. Donc en effet, lui, il représente la troisième génération. Hein, c'est un des représentants de la troisième génération des Tétinger. Il s'appelle Pierre Christian. La fortune pour lui, c'était aussi naturel, aussi évident, si vous voulez, que d'aller jouer au polo, que d'habiter le 16e arrondissement, que d'avoir un majordome chargé de reconduire les importuns. Bon, et mais alors, comme tous ceux qui sont nés riches, il avait un mépris, mais alors de fer, pour tous les gens qui étalent leur fortune, qui se vantent d'avoir du pognon. Et c'était exactement, si vous voulez, le contraire. C'était l'anti-bling-bling, hein, ce monsieur très élégant, très bien élevé. Vous le rappeliez, il a été politique, etc. Mais il était surtout maire du 16e arrondissement. Il a été sénateur à répétition. Il a été deux fois ministre. Et pendant 50 ans, il a siégé au conseil municipal de Paris. Enfin, c'était une longévité tout à fait extraordinaire. Et c'était un gaulliste de circonstance parce qu'il rachetait un peu la faute du papa. Papa qui a été pétainiste et qui a reçu le maréchal Pétain à l'hôtel de ville, le pauvre, en 44. Donc, gaulliste de circonstance, mais profondément giscardien de cœur. Oui, mais absolument. Bon, giscardien de cœur, parce que c'était vraiment, il est de cette droite, comment dire, de cette droite qui veille sur ses intérêts, mais qui est tolérante, qui discute. Il est de la droite, j'allais dire traditionnellement réactionnaire, mais qui sait aussi évoluer avec les grands débats du temps, par exemple. Il a défendu, soutenu Simone Veil quand elle s'est battue pour dépénaliser l'avortement. Et c'est lui qui a eu l'idée de transformer le statut de Paris et de faire de cette ville qui était gérée jusqu'à présent par un préfet, d'en faire une ville comme toutes les villes de France qui aurait droit à un maire élu démocratiquement, etc. Bon, il a même été nommé secrétaire d'État par Chirac, qui était alors Premier ministre, pour mettre la réforme en place. Et puis après, quand il a voulu se présenter comme maire de Paris, bah Giscard, qui était président, lui a préféré Dornano, et résultat des courses, entre-temps, Chirac qui s'était fâché avec Giscard, bah c'est lui qui s'est présenté, c'est lui qui a emporté la mairie de Paris en 77, l'autre était vraiment le dindon de la farce. Pareil, exactement pareil au Sénat, où il a été sénateur, je vous dis, pendant des années. Il s'est présenté, je ne sais combien de fois, à la présidence, enfin, au moins deux fois à la présidence du Sénat, et ses amis, là encore, l'ont trahi. Une première fois en lui préférant Poher, une seconde fois en lui préférant Monory. Bref, le dindon de la farce sur toute la ligne. Dur, dur de faire de la politique quand on est poli, quand on est riche, même quand on est à droite.
Pierre-Christian Tétinger, hommage à lui, décédé à l'âge de 83 ans. On imagine que ça devait être quand même un bel enterrement avec toute la famille Tétinger qui a dû et la veuve Clicquot, la veuve Clicquot qui devait être là forcément, et tout le monde qui faisait flûte. Dans un instant, nous parlerons évidemment du livre de la semaine.
Bon après-midi sur Europe 1, bonne route si vous partez en congé de fin de semaine. Vous êtes toujours avec Laurent Ruquier pour On va se gêner.
Europe 1, On va se gêner,
le livre de la semaine.
Le livre de la semaine, c'est celui de Thomas Lélu. Ça s'appelle Le Parisien. C'est pas comme le journal, c'est le titre d'un roman. Le Parisien. C'est signé donc Thomas Lélu. C'est publié chez Flammarion. Moi, j'avais déjà lu un livre de Thomas Lélu. C'était Je m'appelle Jeanne Masse que j'avais lu, qui m'avait, je dois dire, bien plu. Voilà pourquoi j'avais envie de savoir si vous aviez aimé son dernier. Voilà, il est en librairie, le dernier Thomas Lélu. Ça s'appelle Le Parisien. Et on va commencer par Gaspard Proust pour connaître son avis.
Moi, j'ai beaucoup de scrupules à commenter ce livre. Non, parce qu'il faut reconnaître, c'est un livre. Enfin, il y a des pages, elles sont reliées entre elles. Il y a un éditeur, il y a même un attaché de presse. Et j'aimerais en profiter pour rendre hommage à ce métier qui doit pas être facile tous les jours. Bref, j'ai beaucoup de scrupules, surtout que je suis pas un auteur. Je suis qu'un modeste bouffon dont l'opinion vaut tout, sauf prescription. Je suis pas là pour attaquer systématiquement ce qu'on me donne à lire. Il y a des choses que j'aime. Pas forcément élitiste, enfin, j'ai adoré la dernière comédie musicale de Richard Strauss. moi vraiment, je suis comme vous les auditeurs, moi aussi le matin pour lutter contre la mauvaise haleine, j'avale vite fait une cuillère à soupe de truffes râpées sur un lit de caviar et sa décoction de substances séminales de Roger Descalanques, façon tourneau de Rossini flambé au vieil armagnac, mousseline d'oursin vietnamien, sauce napalm, en vessie de rascasse sous dialyse et son postillon du pêcheur, donnez-moi un saut, je vais vomir. Enfin bref, beaucoup de scrupules, mais par chance, à la page 67, l'auteur nous dit qu'on parle en bien ou en mal de toi, pourvu qu'on en parle. Le bonheur littéraire, merci Laurent, existe, je l'ai rencontré. Et quelle n'est pas ma joie de vous parler ce matin de ce chef-d'œuvre de prose contemporaine, dans lequel on entre avec autant de facilité que dans une allemande après le passage des Russes. Car dans ce livre, Le Parisien de Thomas Lélu, il y a tout le meilleur de la littérature actuelle. On y retrouve la pureté stylistique des premiers Jojo Lapin, la légèreté pudique de Catherine Millet, le sourire enfantin de Michel Houellebecq, le sens de l'autodérision de Francis Lalanne, mais aussi... Un livre serait pas complet sans sa part sombre, le nihilisme sanguinaire d'Alexandre Jardin ou le sadomasochisme scatologique de Marc Lévy. On y retrouve même du Flaubert qui dans cette œuvre brille par son profond absentéisme. Ce livre qui décrit la hype parisienne me fait penser à une phrase de H.G. Hermann Göring qui disait... Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Ici, pour paraphraser, on pourrait dire quand j'entends le mot branchitude, je sors au chacha. Alors vous l'avez compris, ce livre, il faut le lire au moins au centième degré, parce que c'est à 100 degrés que l'eau se met à bouillir, et je pense qu'on tient entre les mains un chef-d'œuvre de l'état gazeux. Alors le pitch est colossal, hein. Bonjour, j'ai 33 ans, je n'ai plus de cerveau, la raison est simple, je suis tombé amoureux. Combien de temps et d'idoles il aura fallu déboulonner avant d'en arriver à ce limpide constat ? Oui, une éjaculation, c'est toujours une fuite des cerveaux. Je laisse encore une minute pour que tout le monde comprenne. S'ensuit un journal haletant de cette descente aux enfers dont l'intrigue se résume à « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, et si tu as un iPhone avec un GPS, prends garde à toi. » Et de dialogues dignes du plus adolescent des chats MSN. Alors au début, on est un peu surpris, hein, l'auteur accumule les phrases, les détails, on se dit « Où est la chute ?» Ça fait beaucoup penser à l'humour de Gaspard Proust. Alors par chance, très vite, l'auteur nous sort ce brouillard et nous assène quelques considérations aussi sublimes que fondamentales sur l'amour. Alors je cite, ouvrez les guillemets, « Nous sommes parfois tellement pareils, virgule, parfois si différents, point, fermez les guillemets. » Ou encore... Ouvrez les guillemets, elle sait parfaitement ce qui m'énerve, et en use pour voir ma tête, et s'assure ainsi d'une certaine suprématie psychologique, point. Elle me tient par les couilles, en quelque sorte, point. Balzac n'aurait pas dit mieux. Mais évidemment, un grand auteur, c'est plus que le sens de l'observation, c'est le sens de la métaphore. Chez l'élu, c'est un festival. Alors il y a déjà cette métaphore tellement sublime qu'on ne la voit pas. C'est l'image de deux Parisiens qui sont assis sur un banc, qui se roulent des pelles et qui se disent « Il faut qu'on soit esthétique parce que derrière nous, il y a le sang de Beaubourg. » Et puis on a d'autres plus minimalistes. Ouvrez les guillemets, le ciel est bleu au-dessus des cheminées. Alors on retrouve souvent cette fascination météorologique. De façon assez subtile, quand l'auteur n'a plus rien à dire, il constate que le ciel est gris, qu'il est bleu, qu'il se couvre, ou que l'air se rafraîchit. Et clairement, ça appuie le côté poétique parce que notre auteur est un poète, il vit à côté de ses pompes, il est inapte au monde contemporain. D'ailleurs, il ose une fois un cri déchirant où il avoue ça, il dit « À Darty, virgule, j'ai eu du mal à trouver une vendeuse dispo. » Alors, et là, pour finir, je décrirai son rêve le plus beau, chef-d'œuvre d'imagination que Freud passerait une vie entière à décortiquer. C'est page 19. Ouvrez les guillemets. Je rêve de Chloé, nue sous la douche, entourée d'hommes. Je la vois alors à genoux, entourée de queues qui effleurent son visage. Alors c'est assez remarquable, notez bien que même dans ses rêves partouzards, les hommes sont extrêmement délicats, puisqu'ils effleurent avec la queue, ils ne fouettent pas. Enfin, on peut être sûr qu'une fois les joues effleurées, ils massent ces femmes en faisant rouler sur elles leurs testicules. Donc c'est là véritablement le sommet de ce livre, c'est pourquoi submergé par tant de beauté littéraire, j'ai préféré m'arrêter en page 15.
Alors, Caroline.
J'ai eu beaucoup de peine pour ce jeune homme, Thomas Lélu. J'ai eu beaucoup de peine pour les provinciaux qui peuvent une seconde se dire si un seul Parisien ressemble, si la vie d'un seul Parisien ressemble à la vie de... C'est inepte. Oui. C'est dommage parce que je vais
vous
dire...
Ce que vous voulez dire aux auditeurs, c'est qu'on n'est pas comme ça.
Non. Non, mais attendez. Je vais vous dire une chose. Non, attendez. Soyons sérieux deux secondes. C'est la vie la plus inintéressante que j'ai lu de ma vie. Elle est racontée.
Parce que vous n'avez pas encore fait d'autobiographie.
Non, alors je vais vous dire une chose. Vache. Sincèrement, je me suis dit, il y a peut-être que ma vie qui est plus inintéressante. Mais même moi, je pense que j'ai suffisamment d'autodérision pour que je la raconterai, je vous jure que même ma vie, je saurais la raconter avec plus d'autodérision et d'humour. Parce qu'il n'y a pas d'humour, il n'y a rien, il n'y a pas d'autodérision.
Pourtant, c'était plutôt sa marque de fabrique à Thomas Lélu.
Mais, je pense qu'il y a un désespoir. Voilà, j'ai quand même chez moi beaucoup d'indulgence. Il doit y avoir un profond désespoir chez ce garçon. Je l'autorise à m'inviter à passer une soirée avec lui pour que je puisse dire du bien derrière de lui, qu'il y ait quelque chose de positif chez lui.
Vous ne conseillez pas le livre, Isabelle Motreau.
Ah oui, alors moi, je l'autorise pas à m'inviter chez lui, d'ailleurs.
Non, pas chez lui.
J'ai pas envie.
Mais peut-être au Chacha, au Baron, à l'usine, à faire de la gym,
comme
je
lui.
Sais pas.
Non, c'est vrai que c'est une vaste chose vide avec des phrases creuses. On voit pas du tout l'intérêt, on voit pas du tout où il va parce qu'il nous raconte une histoire d'amour qui part très mal et qui va nulle part. C'est parsemé de name dropping, d'adresses.
Ça, c'était déjà sa marque de fabrique dans les précédents
bouquins. C'est pas les mêmes familles, hein,
non, mais enfin, c'est transparent. Quelquefois, c'est transparent. Quelquefois, on croit reconnaître plusieurs personnes. Enfin, on est exclu dès le début si on n'est pas parisien, si on n'habite pas dans le 7e, dans le 5e, dans le 18e. Enfin, c'est vraiment un livre sans intérêt. Moi, j'avoue, franchement, je suis pas allée au bout parce qu'au bout d'un moment, comme disait Caroline, on se demande pourquoi il écrit, pourquoi il écrit ça.
Alfonsi, alors.
La seule chose que je me pose avec ce garçon, c'est il a vraiment écrit ça au premier degré. Parce
moi, je crois pas. C'est là où je pense que vous êtes tombé dans un piège.
Ah non, mais
peut-être.
Pas du tout. Moi, je crois pas qu'il y ait deuxième.
Si vous n'avez pas lu les précédents livres, peut-être.
Non, je crois que c'est une provocation.
Moi, non, exactement.
Je crois qu'il a entendu.
Parce que franchement.
Oui, non, parce que, honnêtement, je veux dire, c'est la description. Ou alors, si c'est du deuxième degré, c'est une insulte pour tous les gens qu'il fréquente. C'est une insulte pour tous les lieux qu'il fréquente. Et il déglingue la tribu à laquelle il appartient. Mais c'est effrayant, je veux dire. Oui, c'est effrayant de conneries, de vide, de platitudes.
Mais même si c'est au second degré, ça change pas grand chose.
Gueuluc, alors.
Moi, je crois que c'est une provocation, mais qui m'est destinée à moi personnellement.
C'est-à-dire. Voilà.
Parce que j'ai souvent. Toi, ouais. J'ai souvent dit que ce qui m'énervait dans la littérature française actuelle, c'était trois choses. C'était les gens qui parlaient d'eux-mêmes, c'est les romans dans lesquels il ne se passait rien et qui se déroulaient dans les alentours de Saint-Germain-des-Prés. Or voilà que c'est écrit sous forme de journal à la première personne, qu'il ne se passe absolument rien et que ça s'appelle Le Parisien. Et pour moi, tout est dans le nom de l'auteur.
C'est l'anti-Philippe Delerme.
Il s'appelle Lélu et moi, je l'ai pas lu jusqu'au bout, je suis pas.
Ah bon, écoutez, on va pas s'acharner alors sur le livre, ça vaut pas la peine. C'est dommage parce que je vous jure, moi j'avais plutôt bien rigolé avec un de ses précédents livres. C'est pour ça que je me demande si vous n'êtes pas passé à côté.
Non, notamment le mien.
Allez, on rappelle quand même que ça s'appelle Le Parisien, c'est signé Thomas Lélu et c'est chez Flammarion.
Jusqu'à
18h30 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Ruquier. On continue de rire, mais on s'intéresse aussi maintenant au 7e art.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pompon.
Bonjour Monique. Ah, le petit Nicolas est sorti mercredi et Dieu sait qu'on est au courant à Europe 1, mais on a hâte évidemment d'avoir votre avis, Monique. Bonjour.
Eh ben moi je suis emballée.
Ah bah très bien.
Ah, ah mais oui, c'est vraiment bien.
Avec Valérie Lemercier, Cadmerade évidemment.
Je m'attendais à travers ce que disaient mes confrères qui n'en sont pas d'ailleurs, et que parce qu'ils veulent pas être mes confrères, hein. Mais je m'attendais à un truc ringard. C'est adorable. C'est très bien adapté, très très bien adapté et délicieux. Délicieusement bien joué.
Un film de Laurent Tirard, oui. Rappelons-le, avec qui joue le rôle du petit Nicolas, comment s'appelle le gamin ?
Bien certain, je ne sais pas.
Ah bah bravo, Monique, c'est vous la professionnelle.
Pas vraiment non plus.
C'est vrai. comment je m'en suis pas encore aperçu. Vous viendrez à l'Olympia avec nous le 21 octobre ?
Oh, alors j'aurai très abourien au monde.
Oh, si, on va vous lâcher dans le public et tout, ça va être...
on va l'acheter dans la
ou alors on vous fera sortir du gâteau d'anniversaire, Monique.
Ah, ah. Oui, nu alors.
Hein. Oh, bah avec de la crème, ça passera. Quoi d'autre à part le petit Nicolas.
Attends, et tu sais que ça marche vachement bien,
le petit Nicolas.
Bah, Isabelle.
Ça marche très très bien. C'est une grosse sortie cette semaine.
Et ça cartonne.
Et ça va cartonner encore plus, je pense, le week-end.
Vous l'avez vu, vous ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé.
Vous avez beaucoup aimé aussi, Abba,
oui,
très bien.
Oui, c'est vrai, je pensais que ça allait être un peu mièvre, mais non, non. Mais Laurent Tirard, c'est un excellent réalisateur qui avait fait un excellent Molière.
On passe à Je suis heureux que ma mère soit vivante.
Et maman aussi, surtout.
Sauf que vous, c'est pas possible.
Surtout quand je me suis levée pour partir.
Oh alors... non, voilà, parce que je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle le voie et tout, elle va me le dire.
Ben j'y suis allée, je suis restée jusqu'à la fin.
Et alors ?
C'est nul.
Un film... Oh non,
non un c'est film... complètement nul.
Oh non, non,
c'est
non, rasoir. Non, non,
et ben les critiques qui vivent le cinéma disent que c'est bien, c'est pas vrai. C'est
non,
pas bien.
Tu peux pas dire que
c'est
nul.
C'est un film de Nathan et Claude Miller.
Et
je
ben
suis
justement,
heureux.
Claude Miller, il faisait des bons films. Pourquoi
et ben il fait toujours des bons films. Attends, ce film est vraiment émouvant, surprenant.
Elle est folle.
Oh non, écoute, vraiment.
Mais il y a que toi qui le dis. Les
mais
gens
pas
n'y vont pas, tu le sais bien.
Mais je m'en fous, moi, de ce que disent les autres. Non, franchement,
moi, vous le conseillez.
Ah oui, oui, d'abord, c'est très bien filmé parce que.
Oh là, quand on me dit ça.
Non, non, mais si. Attends.
Il y a une belle lumière.
Si.
Oh, le cadre est très beau.
Si, ce qui te plaît, c'est d'aller voir des films mal éclairés, mal filmés. Bon,
non.
Pas du tout. J'aime les films bien éclairés. Et l'action aussi, qu'elle soit bien claire.
Eh ben, c'est. Alors là, il n'y a pas plus clair que ça. Un fils qui cherche sa mère et qui la retrouve, voilà.
J'ai pas vu, mais d'instinct, je fais plus confiance à Isabelle.
Oh non, c'est un film hyper touchant. Les acteurs sont
formidables. Au contraire de vous, moi, je fais beaucoup plus confiance à Monique Pantel.
On est souvent pas d'accord, Laurent, sur les films qu'on a vus, et je sais que souvent, je suis enchanté du choix d'Isabelle.
Alors justement, je suis désolé parce que là, il faut pas coller une casquette. C'est pas pour m'attaquer à Isabelle Motreau, dont j'aime beaucoup les avis, mais je sais que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est que et ça, Isabelle saura reconnaître, c'est que Monique est tout à fait capable de s'enflammer.
Des fois, on est d'accord.
De s'enflammer pour un film d'auteur qui n'est pas un film grand public, qui n'est pas un film commercial.
Non,
elle conseille des films iraniens. C'est juste qu'elle n'a pas de préjugés. Oui. Elle juge comme elle parle. Mais en tout cas, elle est aussi bien capable de s'enthousiasmer pour une grosse comédie américaine que pour un petit film iranien.
Bien sûr.
C'est pour ça que je lui fais plutôt confiance,
moi. Moi aussi, je suis capable de m'en aller.
Bravo, Laurent.
Moi.
J'aimerais bien voir un petit film iranien ce week-end.
En tout cas, le film de Claude Miller, moi, je vous conseille de le voir.
Je vous conseille de ne pas le voir.
C'est vraiment émouvant, c'est complètement surprenant. Il y a un suspense très soutenu.
D'ailleurs, je comprends même pas que dans les cinémas, maintenant, ils fassent pas Phil Isabelle Motreau, Phil Monique Pantel. Hein.
Mais tu sais que souvent, on est d'accord.
Pas beaucoup de queues. Elles sont
finalement, on est souvent d'accord.
Et c'est pour ça que le petit Nicolas cartonne, c'est parce que vous êtes d'accord toutes les deux sur le même film.
Il ferait mieux de mettre Phil Isabelle Motreau que Monique Pantel.
Oh, Philippe, ça c'est indigne.
500 jours ensemble. Alors, on parle beaucoup de ce film. 500 jours ensemble, un film américain qui, je crois, a surpris et cartonné là-bas aux États-Unis, alors que c'est justement un film d'auteur au départ.
Aux États-Unis, oui. Les héros, si on peut dire, sont aussi rasoirs que les autres héros de ces films de la semaine.
Ah oui.
En 1h36, il ne se passe triste. Et 500 jours, quand même, d'amour, revus et archi-revus, c'est que des flashbacks. Il ne se passe rien, sauf quand même quelque chose. Si on prête bien l'oreille, on entend chanter Carla Bruni.
Ah, c'est pas vrai. Ah, quand même, rien que pour ça, moi, j'irai.
Ah bon, oui.
500
la
jours
môme.
Ensemble.
Vous savez comment aller sur mon nommé la môme.
Isabelle.
Alors, ça démarre plutôt bien. Hein. Ça démarre plutôt bien. C'est la deuxième sortie de la semaine, 500 jours ensemble.
Au voleur, le film avec Guillaume Depardieu et Florence Loiret.
Bruno est voleur. Isabelle est prof d'allemand. Quand il est arrêté, le petit voleur, ils s'enfuient ensemble et le film commence vraiment. Et ça devient une rivière movie. Il se réfugie sur un bateau. C'est pas vraisemblable du tout, mais c'est poétique et les deux acteurs sont très émouvants. Alors on marche.
Marie et Max, un film d'animation.
Marie et Max sont en pâte à modeler, mais c'est pas une raison pour être aussi ennuyeux que les autres héros de la semaine.
Ah bon.
Oui, vraiment. Hein.
On oublie aussi Marie et Max. Alors.
Oui, vraiment.
Bon,
oui.
Le dernier, c'est un film de Steven Soderbergh, The Informant.
Eh ben, il s'est mis au goût du jour, Steven Soderbergh. On n'y comprend rien et c'est très rasoir.
Bah décidément, vous l'avez vu, Isabelle. Oui,
ouais, c'est vrai que.
Ah,
mais Soderbergh, il fait des choses comme ça. Hein. De temps en temps, ça lui prend de nous entraîner dans des dédales.
C'est avec Matt Damon quand même. Hein.
Ouais. Bah oui.
Il est gros comme une patate, mais ça lui donne pas du talent.
Ouais,
il est
voilà,
pas intéressant.
Il a pris 30 kilos, mais c'est pas parce qu'on prend 30 kilos que d'un seul coup on est génial, quoi. Oh,
Matt Damon plus 30 kilos à l'affiche.
C'est une histoire très compliquée, très complexe.
C'est pas pour la cage au
fond. Un type
à côté
qui dénonce
de cette histoire,
une entreprise.
Et tu me permets que je parle.
Oui, vas-y, vas-y.
L'affaire Tyr Stream à côté, ça paraît un jeu d'enfant. Oui. Hein. On n'y comprend rien du tout.
Bon, ça marche pas mal, hein. Ça démarre quand même bien.
Bah, y a Matt Damon quand même à l'affiche.
Oui, parce que c'est américain, c'est pour ça qu'ils y vont.
Bon, alors on conseille, on a bien compris, avant tout, le petit Nicolas, et c'est pas parce que c'est un film européen, parce que Dieu sait que Monique Pantel et Isabelle Motron n'en ont pas toujours épargné ici même des films européens.
On sait même pas ce que c'est qu'un film européen.
Voilà, mais non, d'ailleurs, qui sait ce que, mais bon, voilà, vous avez aimé.
C'est de la radio, ils font pas du cinéma, européen.
Le petit Nicolas, et puis, tout de même, sur les conseils d'Isabelle, vous pouvez éventuellement aller voir Je suis heureux que ma mère.
Soit
vivante.
Oh, mais tu vas voir les gens, ils vont se faire rembourser.
Hein. Pas du tout.
Voilà,
mais
n'oubliez
les gens,
pas que Monique Pantel, elle vous l'a déconseillé. Chacun se fera son avis, chacun fera son choix. Et dans un instant, on me signale que notre invité d'honneur est arrivé. Alors il va s'agir pour vous d'identifier qui est caché dans la loge d'honneur. A tout de suite après les titres de 18h.
Le suspense demeure, Laurent. Bravo.
Europe 1. On va se gêner.
Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur.
Bonjour, invité d'honneur.
Bonjour.
La voix est transformée. Bien transformée, je constate.
Hein?
Mais faites attention tout de même à ne répondre que par oui ou par non ou par des phrases très très courtes. Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord.
La loge est-elle confortable?
Pas mal.
Pas mal. Mes camarades vont donc vous poser les premières questions. C'est
parti. Moi, je sais déjà qui c'est la voix de Roselyne Bachelot.
C'est vrai que ça ressemble.
Sans trafic.
Ça ressemble.
Est-ce que vous êtes un homme?
Non.
Est-ce que vous êtes une femme?
Ah oui, donc la voix est bien transformée.
Ouais, parce que là, c'est vraiment pas. Là.
Mais j'étais persuadé que c'était
Roselyne,
elle
a raison. C'est... Je pensais que c'était un coiffeur ou un célèbre.
C'est Roselyne, que... arrête, Roselyne, sors.
Est-ce que vous avez la voix grave dans la vie?
Non.
Ah d'accord. Est-ce que vous êtes une artiste?
Oui.
Est-ce que vous êtes Bernard-Henri Lévy?
Alors il faut expliquer. Il faut expliquer aux auditeurs que si Gaspard Proust pose cette question, c'est parce que je viens de dire pendant les titres de 18h à mes camarades, surtout si vous avez idée de quelqu'un, ne dites pas est-ce que vous êtes Bernard-Henri Lévy, mais demandez-lui est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un de célèbre. Est-ce que lui voilà, il n'écoute pas mes conseils, Gaspard.
Alors, est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un de célèbre?
Non.
Vous n'êtes pas Ariel Dombal.
Est-ce que vous êtes alors artiste, est-ce que vous êtes chanteuse?
Non.
Il vous arrive de chanter?
Oui, j'aime ça, mais j'aimerais bien être chanteuse, mais je ne suis pas.
Ah, vous êtes actrice,
êtes comédienne.
Et on vous voit chanter dans des films?
Eh oui.
Vous êtes actrice?
Vous êtes comédienne, oui.
Quel est le dernier numéro de Closer où vous étiez en première page? On les a tous, là.
Si elle te répond, le numéro 1053 n'est pas dans la
film. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la une d'un magazine People?
Malheureusement, oui.
Oui. Malheureusement, vous avez fait la couverture du magazine People. Hein.
Mais on peut dire que notre invité n'y est pas si souvent que ça tout de même. Vous êtes plutôt épargné quand même.
C'est vrai.
Est-ce qu'on vous voit plutôt au théâtre ou plutôt au cinéma?
Ça a été plus au cinéma, mais bon, j'ai fait pas mal de théâtre aussi.
Les deux.
Est-ce que votre voix est plus jolie quand elle est pas déformée?
Non, et non.
C'est moche.
C'est un miracle si je travaille autant. Oui.
Vous aviez quel âge quand vous avez connu Roman Polanski?
Vous pouvez répondre que par oui ou par non.
Mais ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai.
On peut avoir un petit indice ou nez parce qu'on s'échouille un peu.
Vous voulez un petit indice, oui.
Ah, oui, allez.
Un indice ou nez, quoi.
Alors peut-être un premier indice sonore.
Et vous, quel âge a votre cerveau? Découvrez-le avec programme d'entraînement cérébral avancé sur Nintendo DS.
Nicole Kidman.
Alors, est-ce que ça aide quelqu'un?
Est-ce que vous avez fait de la
Jérémy,
pub?
Jérémy, ça l'aide, lui, en tout cas. Donc, il a une idée, mais pour l'instant, il s'abstient.
Est-ce que vous avez fait de la pub?
Absolument.
Ah, pour ce produit machin truc du cerveau.
Eh oui, c'est pour ça que je suis réveillée, vive.
Ah, Nintendo, d'accord. Vous êtes la femme de Mario.
c'est Luigi.
Faut se méfier des plombiers polonais parce que on a du mal à les rattraper.
Ça. Alors de la pub, c'est pour le quoi l'entraînement du
oui, oui, oui.
Bon, c'est pour les. Restez pas branchés là-dessus. Hein. C'est pas quand même ce qui a marqué la carrière de notre invité. Vous voyez, je veux
non,
dire.
Mais vous savez, quand on a si peu d'indices que de savoir qu'une voix qu'elle parle comme ça. Vous avez remarqué que ma voix. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Ma voix est déformée, mais moi, c'est à cause d'une maladie grave.
Est-ce que vous pensez que le 11 septembre a lieu un 11?
Est-ce que vous pensez qu'on sera content de vous voir?
Je sais pas.
Oh, si, pas moi. Moi, je vous dis que oui, on sera content de vous voir.
On sera fiers.
J'arrive alors.
Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer quelqu'un.
Est-ce qu'on la connaît?
Est-ce qu'on pourrait envoyer quelqu'un? Bah, on va envoyer Jérémy. Puisque,
ah, bah, moi, j'ai trouvé.
Hein. Bah oui, puisque lui, bah, oui, vous allez trouver. Et puis, comme ça, vous allez peut-être nous décrire physiquement.
Si c'est pas ça, j'aurai l'air con, quand même.
Exactement. Allez, allez dans la loge, Jérémy Michel. Vous allez voir, on vous envoie un petit nain. Il est...
Vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
Il est sympathique, il est très mignon et il vous fera pas de mal. Maintenant, il faut quand même essayer de trouver.
Alors, attendez, moi, j'ai.
Bon, ok,
j'ai
alors bien, cinéma,
un peu de chanson, elle a dit.
Un peu de chanson.
Non, mais la chanson, non.
C'est anecdotique, la chanson.
Oui, oui.
On vous a vu chanter à la télévision parfois. Voilà.
Vous avez écrit un livre?
Non.
Est-ce que vous avez fait un disque?
Ah ben, Non, quand même.
Pas.
C'est une.
Enfin,
comédienne, cinéma.
Actrice, comédienne, cinéma, théâtre.
Oh là
d'accord.
Là.
Ok, alors si on l'a vu chanter à la télévision, vous avez chanté au Resto du Cœur?
Ah, bonne question.
C'est une très bonne question et je réponds oui.
Oh!
Alors vous êtes sérieux, excusez-moi.
Est-ce que tu sais qui c'est? Ça y est.
Alors oui, alors oui.
Alors attendez, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous décrire comment est habillé l'invité aujourd'hui?
Ah oui, parce que j'ai des petites jambes, je suis pas encore dans la loge. J'arrive, je progresse difficilement, je suis plus loin maintenant.
Ça y est, alors, où êtes-vous?
Ça y est, c'est bon, je viens d'entrer dans la loge.
Est-ce que l'invité est celle à laquelle vous pensiez?
Oui, j'avais bien reconnu notre invité d'honneur.
Alors, comment est-elle habillée aujourd'hui?
Elle est en jean avec une chemise à carreaux à la mode, avec des chaussures noires, avec une semelle rouge et des talons.
Ça vous aide?
Est-ce qu'elle est beaucoup plus grande que vous?
Nécessairement, oui.
Ça aurait pu être Mimi Mathy, il a raison, qui chante aux enfoirés régulièrement.
Bien sûr, Mimi Mathy qui aurait mis des talons, bien sûr.
Est-ce qu'elle a les cheveux courts, Jérémy?
Non, elle n'a pas les cheveux courts, on peut dire courts.
Est-ce qu'elle nous fait rire?
Oui, elle vous fait rire, enfin moi elle me fait rire.
Est-ce qu'elle a fait du one woman show?
Non. Est-ce qu'elle nous fait rire exprès ou c'est malgré
est-ce
elle?
Est-ce qu'elle est
ridicule? C'est pas Evangélie. Alors, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'une question pourrait conforter votre idée, Caroline?
Oui, est-ce que vous avez joué dans un film réalisé par quelqu'un de cette équipe?
Une femme, vous voulez dire?
Oui.
Oui, alors oui, oui.
Voilà. Je crois que Caroline a trouvé. Philippe, vous avez trouvé aussi?
Non, là, non, mais je sais, j'ai compris de qui tu parlais. Le réalisateur, mais maintenant.
C'est qui le réalisateur selon vous?
La réalisatrice.
C'est une réalisatrice.
Ah, c'est une réalisatrice.
Qui d'autre on a comme? Ah, bah oui, on a Patrice Lecomte.
Je pensais à Patrice.
Ah, bah oui, c'est vrai. Alors, pour
ah, bah j'ai joué aussi. Aussi, à la pour de Patrice.
Et au théâtre.
Et au théâtre.
Et au cinéma pour Patrice Lecomte.
Est-ce que vous avez joué avec Pierre Palmade?
Mais oui.
Alors, la réponse. Bah allez-y. Voilà.
Mais machine, vous êtes machine, Michel Larocque.
Michel Larocque va nous rejoindre dans un instant dans ce studio.
La voix n'est pas loin.
Vous êtes bien sur Europe 1, on va gêner se poursuit jusqu'à 18h30. On retourne dans la loge d'honneur, retrouver Laurent Ruquier, ses complices et son invité qu'on a trouvé.
Michel Larocque est notre invité d'honneur, c'est elle qui avait accepté de se cacher dans la loge d'honneur. Bonjour Michel Larocque, merci d'être là. Et parmi les questions, il y avait est-ce que vous avez déjà fait un one woman show? Ben non, elle s'était jamais retrouvée toute seule en scène, en fait.
Mais je le fais toujours pas parce que c'est quand même pas ça ce que je joue. C'est plus une.
C'est une pièce jouée toute seule.
Oui, c'est ça, voilà.
Ouais. Mon brillantissime divorce. D'ailleurs, vous êtes deux sur l'affiche, vous et vous.
Voilà, oui, c'est pour tromper les gens.
Mais pourquoi alors ce double jeu justement?
Non, c'est parce que on passe par tellement d'émotions différentes et elle est aussi euphorique que très désespérée. Mon personnage, voilà, j'avais envie de montrer ces deux aspects de
souriante et craquante dans les deux cas de toute façon.
Non, merci,
mais souriante
Laurent.
Et en train de craquer. Mon brillantissime divorce, c'est au Palais Royal.
Oui.
Ah, voilà, alors quand même une
un
nouvelle.
Un beau théâtre. Hein.
C'est peut-être pas un one woman show, mais c'est quand même une nouvelle aventure pour vous.
Ah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, il faut que j'aille vite me reposer parce que
vous répétez beaucoup.
Non, enfin oui, mais surtout il faut que je sois en forme, c'est terrible.
C'est vrai.
Je passe mon temps à me reposer dans la journée, oui.
Vous avez peur?
J'ai pas peur, non. Mais je sens qu'il faut que je sois en forme, vraiment particulièrement.
Ça dure combien de temps?
Ça dure une heure et demie.
On va venir vous voir. On n'a pas encore eu l'occasion, mais on va venir.
Oui. Bah oui, j'ai hâte que vous veniez. Mais c'est vrai que ça tient à mon humeur, à ma forme. Donc voilà.
On peut pas se reposer sur l'autre, sur le partenaire.
Jamais.
Ou le partenaire.
Exactement. Alors, mais si je peux pas me reposer sur le public non plus. Non mais c'est vrai parce que on sait jamais.
Non, quand même.
Du coup, il faut que je sois dans ma bulle et super
quand
en
même,
forme.
Le public vient nombreux vous voir.
Ah ouais, c'est génial.
Ils vous aiment. Ouais. Ils savent qu'à chaque fois, ils se trompent rarement. Quoi, je veux dire, quand ils vont vous voir au cinéma, quand ils vont vous voir au théâtre, que ce soit avec Pierre Palmade. Donc il y a quand même déjà un public, si ce n'est acquis, mais qui vous est favorable dans la salle. Ça vous le sentez?
Oui. Et puis surtout, moi, ce qui me surprend, c'est que il y a énormément de très jeunes. Et hier soir, par exemple, il y avait 15 jeunes, mais je sais pas, de 20 ans.
C'est bien pour le théâtre, ça.
Extraordinaire. En plus, Palais Royal, c'est quand même un petit côté un peu vieux théâtre, etc. Donc, je pensais pas.
Faut dire que les vieux peuvent pas venir parce qu'on peut pas se garer.
Non, mais si, oh là là, il y a toujours.
Donc, il y a que des. Vous pouvez aller au Palais Royal qu'en roller,
en trottinette.
Et donc, voilà pourquoi c'est Jones. Mais tant mieux, ça, pour le théâtre et pour vous,
ça
évidemment.
Et puis, c'est des rires très, très sympathiques.
Peut-être qu'ils se renseignent aussi sur le divorce, puisque quand même, un couple sur deux.
Je crois qu'ils ont envie de savoir ce qui arrive à leurs parents,
ouais.
Ils ont envie de comprendre ce qui se passe dans la tête.
Non, pourquoi cette idée? D'abord, il faut quand même citer l'auteur qui a travaillé avec vous, Géraldine.
Elle n'a pas travaillé avec moi, c'était sa pièce.
Au départ,
qu'elle a jouée aux en Angleterre, pardon, c'est une anglaise, et qui a été vendue, je crois, dans 32 pays, et moi, je l'ai adaptée.
Vous l'avez jamais rencontrée?
Non, j'ai jamais rencontré. Elle arrive là, elle vient le 6 et le 7.
Mais elle comprend le français?
Non, tant mieux.
Non, parce que parfois ça fait une surprise.
Mais oui, surtout quand même, je l'ai beaucoup adapté, donc voilà, j'espère que ça va lui plaire.
En fait, elle va être dans la salle, elle va entendre les gens rire, elle sera ravie. Voilà. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est ce que vous avez ajouté dans la pièce qui fait rire les gens.
Non, il y a des situations géniales.
Alors Dieu sait que je me mêle jamais, en tout cas rarement, de la vie privée des invités. Je pose pas de questions de cet ordre-là, donc ma question ne va pas dans ce sens. Mais quand même, juste, vous avez divorcé vous déjà ou pas, Michel Larocque?
Oui.
Ah donc c'est quand même un peu du vécu alors.
Non, parce que je suis pas passée par les mêmes hauts et bas que mon personnage, mais oui, je suis divorcée.
Donc, c'est drôle de dire, je vais pas du tout parler de la vie privée,
mais non,
ça pas. Et ma question ne va pas du tout dans ce sens.
Non, mais c'était pas pour potiner.
C'était pour que Michel ne croie pas que je veuille savoir qui c'était, avec qui et comment, et ceci, je m'en fous.
Pas vous,
quoi.
Mais moi.
Mais quand même,
c'était qui?
Non, mais sinon, on parle pas de la vie privée.
Mais quand même, quel salaud!
On parle pas de la vie privée, mais sinon, vous avez un mec en ce moment où on parle pas de la vie privée.
C'est lui qui est parti, c'est toi.
Non, mais alors, quand même, donc, évidemment, vous êtes un peu concerné par le texte de ce spectacle.
Mais en fait, non, ce qui me concerne, c'est que je trouve que tout ce qui est en jeu dans les relations affectives, c'est très fort, quoi. Ça prête à des tas de situations fortes. Donc, ça peut être d'autant plus drôle ou d'autant plus émouvant.
Elle est plaquée dans le spectacle ou pas?
Elle part, ouais. Mais au fur et à mesure du spectacle, elle se rend compte qu'elle a pas fait d'effort depuis très longtemps et que elle a peut-être, c'est elle peut-être qui avait envie du divorce et qu'inconsciemment, elle l'a poussée à partir.
C'est un peu sa faute.
Ça, c'est intéressant, quoi.
Pierre Palmade risque pas de débarquer à un moment donné dans le spectacle.
Oh, j'aimerais, il me manque. Hein.
C'est vrai.
Oh, j'adorerais jouer avec lui. Mais c'est bien de jouer avec quelqu'un. Non, mais enfin, je dis ça, je m'amuse quand même, mais c'est tellement bien de jouer avec quelqu'un.
Vous jouez avec le public.
Oui, voilà. Enfin, oui.
Le public a du talent. Le public a moins de talent que Pierre Palmade.
Le public vient tous les soirs, Pierre, pas forcément.
Non, il est venu là justement.
Tu imagines la solitude. Le drame de quelqu'un qui fait une carrière seule. Et imagine le mime Marceau, il avait même personne à qui parler, lui.
Non mais au moins t'as pas. Non non mais c'est difficile de parler. Non,
mais alors en plus attention, vous avez accumulé les difficultés parce que non seulement si j'ai bien compris c'est votre première fois seul en scène, mais vous n'avez pas pris de metteur en scène, non. Donc un regard pour vous conseiller, vous vous mettez en scène toute seule.
Mais oui parce que je crois que enfin j'avais envie de le raconter à ma manière. Alors du coup je me suis dit j'ai pas envie que quelqu'un me dise d'autres choses à faire. Apparemment ça se passe bien parce que tout le monde me dit ah oh, quelle mise en scène même quand ils savent pas que c'est moi qui l'ai fait.
Ah ça c'est pas mal.
Ouais, je suis contente. Auriez... Je suis vraiment oui bah c'est moi.
Vous auriez pu mettre un faux nom comme metteur en scène, ouais, ça c'est pas mal.
Mais oui, je sais plus que ah non, c'est Philippe Bouvard le chef qui m'a dit oui mais alors
qui ça
Philippe Bouvard.
Il y a des mots qu'on peut pas prononcer ici.
Qui m'a dit que là, qui m'a dit bien. Qui c'est cette Géraldine Aron, je sais pas, un auteur anglais fait c'est pas vous quelque part. J'ai dit non.
Anne Roumanoff au Palais Royal.
Oh non, mais
non, parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup d'elle en ce moment,
vous
c'est
êtes
vrai.
Au-dessus de ça. Franchement, alors là.
Je rappelle la phrase de Pierre Palmade qui, moi, il m'a appelé il y a une quinzaine de jours. Il a dû vous le faire à vous, Michel.
Quoi.
Il m'appelle puis il me fait qu'est-ce qui se passe? Je quitte Paris un mois, je reviens. Anne Roumanoff est une vedette.
Non, il me l'a pas fait.
Ah, c'est dommage.
Mais hier, il m'a appelé parce qu'il voulait. Il était en train d'écrire quelque chose sur les sept nains et il se souvenait plus du nom du septième.
Bah, il m'appelle.
Alors
hein.
J'ai dit ah bon d'accord.
Je peux l'aider.
Non, c'était simplet. Il lui manquait simplet.
C'est ce que je dis.
Michel Larocque à l'affiche de Mon brillantissime divorce. Enfin, c'est pas le mien, hein, c'est le sien, mais c'est au Palais Royal, Mon brillantissime divorce. C'est à 20h30.
À 20h30. Exactement.
20h30. Ouais, on en reparle tout de suite après quelques réclames.
Pour la dernière fois de l'après-midi autour de Laurent Ruquier, il y a aujourd'hui Philippe Afonsi, Isabelle Motreau, Caroline Diamant, Philippe Geluck, Gaspard Proust, Jérémy Michalak et bien sûr l'invité d'honneur.
Qui avait identifié Michel Larocque autour de cette table? Vous, Caroline, assez vite?
Oui, absolument. Mais je dois dire que c'est la technique de transformation de la voix était une des plus excellentes depuis le début.
Bon, Jérémy, vous avez été le premier
à
identifier.
Sur l'indice, sur la publicité. Pour
à
la
cause de la pub.
Ah oui.
Bien sûr.
Alors,
ça, j'ai été surpris.
La petite frime de cette pub, c'est que je l'ai tournée avant Nicole Kidman et qu'ils ont montré ma pub à Nicole Kidman pour lui montrer ce qu'elle devait faire. Voilà.
Wow.
Ouais. Bon, allez, on passe à votre chose quand même.
Elle devait être verte de jalousie quand elle a dit ça.
C'est pour ça qu'elle a dit oui.
Et Tom Cruise, alors, vous l'avez connu aussi?
Alors oui, je l'avais vu aux États-Unis.
Parce que vous avez vécu pendant longtemps à Los Angeles, peut-être même y vivez-vous encore.
Je vais vous raconter un truc, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. J'étais sur le tournage du film de Cameron Crowe parce qu'il le produisait et j'étais avec ma fille qui est assez petite et je dis oh là là, il est habillé comme un plouc. Bon. Et ma fille, qui savait pas ce que c'était, et pensait que c'était peut-être un peuple, elle a dit, mais tu t'en sais rien, peut-être c'est un plouc?
Ah, c'est mignon. Gaspard Proust, vous n'avez pas identifié
Michel.
Non,
moi je persiste à dire que c'est Roselyne Bachelot.
Non, je suis convaincu.
Non, moi je suis très troublé par la voix déformée.
Pourquoi?
Je trouve que vous devriez essayer d'en faire quelque chose parce que peut-être des blagues, des mauvaises blagues ou des trucs comme
j'avais
ça.
J'avais un deuxième indice sonore quand même, c'était ça. C'était...
Tu chamboules ma vie, ce coup de foudre à Orly, je décolle déjà, j'oublie mon pyjama, je te suivrai où tu iras.
Michel Larocque.
Ça, c'est avec Pierre que vous chantez avec Pierre Palmade.
Oui, c'était dans le premier spectacle.
Ah, voilà, c'est ça.
On a vu une chanson intellectuelle, quoi.
J'adore cette chanson. Ses paroles sont tellement émouvantes.
Oui, c'est ça. Après, on a fait Lapin Poète Poète.
Voilà, c'est ça. Le Lapin Poète Poète était plus.
En fait, ça amusait beaucoup Pierre et Muriel. Hein. Moi, pas du tout. Hein, mais...
Il y avait on va quand même écouter l'autre, indice sonore, même si c'est dans le désordre. Il y avait
des sables. Oui.
Alors,
mais pourquoi
pédale douce?
Pédale douce.
Évidemment pour pédale douce. Et d'ailleurs, parmi les indices que j'aurais pu vous donner, c'est qu'en 95, effectivement, il se faisait piquer son mari par Fanny Ardant.
C'est vrai.
Michel.
Mais je pensais qu'il était homosexuel, donc.
Oui, c'est vrai
un
aussi.
Gros malentendu.
C'est le cas aussi dans Mon brillantissime divorce, non?
Il part avec une Roumaine.
Ah, voilà.
Ah, le salaud.
Et après, il passe à une manucure croate.
Mais qu'il a rencontré quoi? Un feu rouge? Comment ça s'est passé?
On en a pas parlé.
Il s'est dit, il doit super bien faire les carreaux.
Il y a peu de temps, elle a travaillé avec un personnage qui a un léger problème avec les cheveux. Alors là, évidemment, c'est Isabelle Mergault, on en a parlé. C'était enfin Veuve. Et puis, alors ça, j'ignorais, le docteur Kawashima, c'est lui qui a fait le jeu dont vous avez fait la pub, le docteur Kawashima.
Enfin, c'est un jeu, c'est un entraînement
cérébral, ah oui, moi je le fais. Super bien.
Déjà, se souvenir du nom du docteur, c'est un entraînement cérébral.
Ah oui, c'est ça. Passe-moi le jeu du...
Comment il s'appelle?
Quant aux enfoirés, aux Resto du cœur, effectivement, on vous y voit chanter et vous aimez ça. Ça veut dire qu'un jour, peut-être, il y aura
Jamais, mais en revanche, là, c'est génial de chanter avec les meilleurs chanteurs. Oui. D'abord, ils vous font bien chanter et puis surtout, on s'amuse et voilà. Ça, c'est une grande chance.
Mais alors, peut-être, vous auriez pu en profiter, là, au Palais Royal, intégrer une petite chanson à un moment donné dans le spectacle.
Mais qui vous dit qu'il n'y a pas de chanson?
Ah, justement, c'était une question indirecte.
je chante pas.
Ah, vous ne chantez
pas. Ça se termine par, a cappella deux secondes.
Ah, voyez, vous pouvez
ça
pas.
Ça a un sens, mais je peux rien vous cacher.
Vous pouvez pas vous en empêcher.
Les chansons de deux secondes, mais c'est court, on peut pas danser.
Non.
Bon, alors, maintenant, parlons de votre vie privée. Au Palais Royal, brillantissime divorce au Palais Royal avec Michel Larocque. J'abuse de votre temps quelques minutes encore pour la dernière question du jour. Question collective. Vous allez aider mes camarades à tenter
répondre.
Ça s'est passé en 1937. En 1937, on a décidé d'en changer le jour. Le jour de quoi ?
Le jour de l'an ?
Non.
Le jour de la messe.
Ah oui. Non. Le solstice. Oh.
Le silence après Gaspard Proust est encore du Gaspard Proust.
Vous dites quelle date?
1937, on a décidé d'en changer le jour.
Le jour de sortie des films.
Le jour de sortie des films de cinéma. Bonne réponse.
Comment tu fais des choses comme ça, toi?
Parce qu'il a lu l'article du Parisien dont je n'ai lu que le titre.
Effectivement, on nous parle aujourd'hui dans la presse du fait que certains grands distributeurs militent désormais activement pour un autre jour de sortie des films.
Ce serait lequel, alors?
Le vendredi.
Comme aux États-Unis.
Au lieu du mercredi, comme aux États-Unis. Et alors, là, je trouve que c'est intéressant, la petite recherche qu'a fait le Parisien. Ils disent, mais alors, est-ce que les films sont toujours sortis en France le mercredi? Donc, d'abord, avant le mercredi, il y a eu le jeudi, quand même, qui était le jour scolaire des enfants. Donc, j'imagine que ça a dû être jeudi à une époque. Toujours est-il qu'ils étaient les films programmés le vendredi jusqu'en 1937.
Ah, c'était le vendredi.
C'était le vendredi jusqu'en 1937. Le public allait surtout au cinéma le dimanche, seul jour chômé, il faut dire. Et il fallait au moins deux jours aux exploitants pour recevoir toutes les bobines des films aussi. C'était plus compliqué, évidemment, qu'au jour d'aujourd'hui. Mais tout a changé avec le Front Populaire en 36, où il y a eu deux jours de repos hebdomadaires. Et là, il y a un distributeur, Pathé, pour ne pas le nommer, qui en juillet 1937 a décidé de passer au jeudi, donc jour de congé scolaire. Et c'est passé au jeudi, tous les autres ont suivi, donc le 11 août 37, tous les films sont sortis le jeudi, puis ensuite le mercredi, évidemment, quand le jour de congé scolaire a changé. Et là, maintenant, on veut repasser
au vendredi.
Vous êtes pour, contre, Michel?
Il faudrait me donner le dossier pour que je puisse vous donner
les arguments des pour et des contre. Les petits producteurs de cinéma et certains réalisateurs de films d'auteur disent l'avantage de sortir le mercredi, c'est que ça laissera un peu de temps au film pour s'installer au bouche à oreille de se faire entre le mercredi
et le week-end.
Et le premier week-end.
Ce genre de film, on les regarde mercredi, on les comprend vendredi, donc
non, mais c'est vrai aussi en même temps que ça va favoriser la grosse machinerie industrielle américaine si on sort les films le vendredi, parce que dès le week-end on va voir les gros trucs, tandis que le mercredi et le vendredi quelqu'un vous dit j'ai vu un bon petit film, ça peut vous faire changer d'avis.
Et le lundi les taux d'entrée dans les salles vont être catastrophiques, enfin je veux dire ça va être rédhibitoire,
et on peut pas justement ne pas fixer de jour.
Alors est-ce qu'on pourrait pas sortir les grosses machines américaines
le lundi,
une fois par mois seulement?
Et si on les piratait, qu'on les regardait chez nous?
Je sais pas si j'ai été objectif et clair dans mon
pas d'opinion, donc
ça veut dire que pour l'instant vous ne vous mouillez pas là-dessus, hein.
Je sais pas.
Que vous avez le don de passer justement aussi bien de films très grand public, si ce n'est commerciaux, parce que c'est un terme parfois péjoratif,
mais c'est vrai, j'ai eu de la chance
à des films d'auteurs plus intimistes, donc c'est pas facile de vous placer évidemment dans ce débat.
On pouvait aussi dire caméléon.
Et avec une qualité absolument constante. C'est rare. Non.
Non, monsieur Gueluc, là. On a dit qu'on était sympa avec les invités, mais enfin, de là.
Ah non, mais elle, c'est différent.
Il y en a un beau qui arrive de film.
C'est vrai, lequel?
Oscar et la Dame Rose.
Ah, adapté de la pièce.
En fait,
Eric,
du roman.
Eric et Emmanuel Schmitt.
Ouais, c'est lui qui l'a réalisé. Ouais, et alors, il a transformé la Dame Rose, puisque c'est plus du tout la même histoire pour la Dame Rose, mais Oscar, c'est magnifique. Hein.
Alors, vous reviendrez nous en parler. Bon, peut-être qu'on vous cachera pas une deuxième fois dans
non,
la loge.
Non, c'est pas la même voix, parce que ça m'a déprimé.
Mais en tout cas, on va venir vous voir très vite. On va essayer de faire. Tiens, on pourrait y aller en bande.
Oui,
ah, ouais, ce serait sympa. Au Palais Royal, applaudir
après.
Michel Larocque dans mon brillantier. Ah, bah, c'est une raison de plus pour venir. C'est vous qui payez ?
Bien sûr.
Mon brillantissime.
Je ne pas comme ça.
Divorce, tous au Palais Royal. Merci Michel. Bon week-end sur Europe 1.
Oui.
Les best-of demain samedi et dimanche. Mm-hmm. Autrement, à lundi 16h.
Et c'est bien ça, à lundi 16h, très cher Laurent.